Welcome to the show. Six and Dads Hip Hop Show. Bringing you the best.
Bringing you the
best in hip hop.
DJ, turn it up.
Oh, yeah.
Comment ça va les petits amis? Bienvenue sur cet épisode de Six and Daz Radio Show, Hip Hop Show, blablabla show. On est le combien? On est le 6?
Sixième épisode, ouais.
Épisode 6. Épisode 6 depuis le 5, Lil Kim.
Épisode 6 spécial, donc parce que...
Mais alors, à l'heure où vous allez entendre ça, en fait, on est vraiment à deux doigts de révolutionner la radio, parce qu'on fait limite cet épisode en streaming, puisque nous sommes le mercredi soir et que normalement les épisodes de Six and Das sortent le mercredi matin, c'est-à-dire qu'on est en retard.
Mais on avait un problème contractuel.
On a eu un impondérable. Voilà. Du coup, comme on est quand même des professionnels, au lieu de le sortir ce matin, eh ben, on l'enregistre aujourd'hui soir, donc mercredi... On est le combien? Le 20 novembre, mercredi 20 novembre au soir, pour une mise à dispo dans la full axe. Ça dépendra de notre magislin.
Très beau.
Le magislin, tu n'attendais pas celle-là, moi non plus, c'est du freestyle. Alors, Six, ça me fait ultra plaisir de te retrouver, bien entendu.
Moi aussi,
bien
ça me fait plaisir d'être là, toi.
Après, la vraie musique... Le vrai rap de bonne femme. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire que c'est l'épisode 5, donc sur Lil Kim et Foxy Brown, l'épisode 5 et demi. Et ben là, on est pile au moment où les albums sont sortis en 96.
Exactement. Ouais, bon anniversaire. Alors,
c'est comme si on avait fait en sorte de caler les calendriers. Mais pas du tout, c'est du freestyle.
Plus tard, les gens se rendront compte de toute la Matrix. Comment ça se recoupe.
Ah, il y a des clés qu'on laisse traîner. Donc là, Six, dis-moi... De qui on va parler? On l'avait annoncé pour les gens un petit peu studio qui écoutent bien les émissions
jusqu'au bout.
Mais pour tous les cancres là qui arrivent aujourd'hui. Eh oui, Nate Dogg bien sûr.
Histoire de se mettre dans l'ambiance.
Voilà, une spéciale Nate Dogg, hein. Ça me fait vraiment
plaisir.
Ouais. En fait, vu qu'il a fait 657 refrains mais zéro couplet. Ah ouais, on est bien. Il va rappeler l'autre quand même. Voilà. Il rappelle bien.
Il rappe toujours bien.
Oui, il est pas mort. Contrairement à Nate Dogg. Contrairement à Nate Dogg hein, qui nous a quittés. Donc évidemment, on va parler aujourd'hui de... Ludacris.
Alors, donc on est revenu sur Atlanta et on va parler d'un autre big seller.
Bien malgré moi, hein, parce qu'évidemment encore une fois sur Atlanta, pour moi il y a un groupe qui est incontournable, mais apparemment à chaque fois on prend des virages pour pas parler d'eux. Donc on a fait T.I. la première fois.
Dès que je les vois, je tourne.
Ouais, bah c'est ça. Donc il me dit ouais, on va à Atlanta, cool, on va parler d'Outcast. Non, on parle de T.I. Ok, c'est pas grave. Donc là il me dit on retourne sur Atlanta. Ah cool, on va parler d'Outcast. Non, on va parler de Ludacris. Ok, c'est pas grave. Alors vas-y, raconte. Alors, donc on est de retour sur Atlanta, la capitale de la Géorgie, du Ku Klux Klan, de Coca-Cola et de plein de trucs comme ça.
Et du Père Noël.
Aussi, ouais, allez. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas?
Eh ben, donc comme je te disais, on va parler d'un autre big seller, on appelle ça vraiment les monstres en termes de vente. C'est Ludacris. Alors, Ludacris, on connaît, mais lui aussi, c'est un peu
alors,
comme
on
T.I.
On connaît d'où?
Attends, on connaît. Alors, tout le monde le connaît parce qu'il est... maintenant acteur dans la série phare Fast and Furious.
C'est limite normal de dire, moi j'aurais dit la série spoiler.
Oui, c'est vrai.
Mais toi t'as dit série phare, mais ça pourrait être série jante. Tu vois, dans le champ lexical de l'automobile. Donc oui, c'est effectivement un des acteurs récurrents qui ne se fait pas tuer.
C'est vrai.
Et c'est intéressant à noter dans une série qui a quand même massacré son propre héros.
C'est
parce que lui il est mort pour de vrai. Paul Walker reste une piste aussi.
Capable de tout hein, pour la promo. C'est américain. Ouais.
C'est incroyable ces américains. Donc oui, Ludacris est un acteur de la série Fast and Furious. Oui. Plus marrant que Vin Diesel.
Oh, légèrement, oui.
C'est pas dur.
Oui,
c'est pas dur. Et donc, ouais, alors nous, on va en parler pas en tant qu'acteur, mais en tant que rappeur prolifique. Et je dis prolifique parce que là, vous le voyez peut-être pas, mais à côté de nous sur la table, encore une fois, Six ramène les devoirs à la maison. Il y a, je sais pas, 12 albums, 18 albums.
Ouais, on est à 15-16 là.
Hein. Ouais, 15-16. Ouais.
Bon, il y a Luda, puis il y a toute sa team DTP, on en parlera.
Voilà, parce que ça va être aussi une émission où on va parler, on va faire exactement comme avec T.I., c'est-à-dire qu'on va parler de l'artiste solo Ludacris, mais également de Disturbing the Peace.
Exactement.
Son crew, son créo.
Son crew, son même son business, hein, parce que c'est au-delà d'un crew, c'est, on en parlera, c'est une réussite, c'est rare qu'un MC arrive à créer avec son label une réussite au niveau du terme, au niveau du business.
Ouais, bien sûr, il y aura le point business comme d'habitude, mais on va commencer tout de suite avec le point DAS.
Alors le point DAS, eh ben écoute, on va en décevoir quelques-uns parce qu'il n'y a rien à signaler.
Oh non.
Eh oui, il n'y a rien à signaler.
Un artiste qui a vécu dans une famille pas dysfonctionnelle.
Exactement. Eh oui, tu vois, il est né, alors il n'est pas né à Atlanta, mais il est né dans l'Illinois, dans une ville qui s'appelle, ça c'est très américain, Champaign.
Champaign, Illinois. Alors nous on dit Champagne dans l'Illinois.
Voilà.
Illinois, ouais. Bien sûr, hein, ouais. L'état du Midwest dont la capitale est...
Sacramento.
Chicago, bien sûr, Chicago. Comme vous le savez tous. Donc lui, il est né dans une famille normale, ouais. Aimante, avec des parents présents.
Des parents, exactement, tu vois. Et puis, donc il va faire un petit déménagement à Atlanta.
À 9 ans.
Donc il arrive avec une culture différente lui aussi. Un peu comme T.I., tu vois, qui visitait souvent son père à New York. Ce qui fait qu'il sort, ça, c'est certainement la raison pour laquelle il sort du lot aussi.
En fait, Atlanta, il n'y a personne qui est né là-bas, quoi. Les mecs sont tous arrivés d'ailleurs.
C'est vrai.
Ouais, parce que quand tu repenses, vrai, hein, parce que j'ai regardé Menace to Society il n'y a pas longtemps, pour me rappeler, et en fait, maintenant que je. Tu vois, maintenant que je suis daron, putain, ce film, il est dur, hein. Et pourtant, je l'ai vu 200 fois.
Ça fait longtemps, moi.
Mais là, je le vois avec mes yeux de père.
T'as chialé.
Eh ben putain, non mais il est méga dur, il est ultra violent. En fait, je m'étais pas rendu compte que c'était aussi. C'est là que tu te rends compte qu'on est complètement insensibilisé par la violence dans les films. Là, je peux te dire que quand le coréen déjà se fait allumer en deux frames au début du film, t'es déjà pas bien. Quand le cousin Harold il se fait buter sur la route, là, t'es vraiment pas bien. Enfin bon, bref. Et parce que je parle de ça parce que. Dans Menace to Society, le but ultime de Kane, qui est quand même un dealer de coke, hein, on va pas l'oublier, et un meurtrier, c'est d'aller à Atlanta. Sous-entendu, Atlanta va résoudre tous mes problèmes. À Atlanta, la vie est belle. C'est
parce que je pense qu'il y avait un boom économique et que
c'est ouf.
C'est
hein.
Ça, tu vois, il y avait beaucoup de boîtes qui devaient s'installer. Puis les Jeux Olympiques, ça a attiré pas mal de monde.
Il y a eu plein de trucs qu'on a attiré pas mal de monde. Et donc, le petit Chris, donc lui, il arrive à Atlanta.
Il arrive à Atlanta à 9 ans.
À 9 ans.
Voilà. Et alors, il va faire des études lui aussi. Il va aller même au lycée, collège. Il va avoir vraiment une enfance tranquille, une enfance, on pourrait presque dire suburb.
Presque déçu.
Ouais, c'est vrai. Et lui, son truc, c'est le DJ. Il est DJ. À la base, il va rentrer dans une des radios locales qui s'appelle Hot 97.5.
Ah bah, presque comme
c'est presque
Hot 97. Voilà. Alors, non,
le système des radios aux États-Unis, bon, il n'y a pas de radio nationale. C'est pas comme en France où vous avez une radio nationale qui a plusieurs antennes. Aux États-Unis, c'est des franchises. Donc vous avez les Hot qui sont ils peuvent être un peu partout dans les grandes villes.
C'est pour ça qu'il y a les Power.
Les Power et les Gem, tu vois.
Ouais, c'est
des systèmes de franchises comme le Macumba.
Je sais pas s'il y a une franchise Macumba.
Il y a une franchise de la discothèque Macumba.
Ah, tu veux dire que ce serait comme les franchises de tabac, de bar tabac Balto
voilà.
Ou Chiquito.
Ouais, tu vois. Et donc lui, il est sur Hot 97.5. Oh, WHTA 97.5.
Ouais, voilà, c'est ça, d'accord.
Et là aussi, alors, ça c'est bien parce que culturellement c'est toujours intéressant. Et il va être DJ pour ce qu'on appelle les Freakniks. Et les Freakniks, c'est le pré-spring break à l'époque, à Atlanta, ils se réunissaient à la même époque, au printemps, et ils faisaient des barbecues énormes, où ils réunissaient tout le monde, ils faisaient la fête, et lui, il était DJ pendant ces fêtes-là, tu vois.
Des Freakniks.
Des Freakniks, exactement, tu vois.
C'est pour, déjà, une notion de...
C'était Fraternity et Picnic, tu vois, il avait rassemblé des trucs comme
Je vois. Ah oui, Fraternity and Picnic. Freakniks.
C'était vraiment une sorte de pré-spring break, tu vois. Maintenant, spring break, c'est devenu
c'est une franchise, là, pour le coup.
Ouais, c'est clair. Ouais, tu sais que ça m'étonnerait pas, puisque ça déposait.
Ouais, genre, tu dis Spring Break et tu te prends un avocat avec un season desist derrière.
Ouais, alors, il a choisi son nom de scène, c'est Chris Lovalova. Donc, rien à voir avec Luda Chris, tu vois.
Non, plus à voir avec Shaggy, j'espère que c'était antérieur, non?
Oui, c'est de la même époque, hein. Quasiment la même époque, tu vois.
Et en faire déjà, on commence bien cette émission.
Bah, tu sais comment c'est aux États-Unis quand ça marche. Oui. Derrière, t'as 15-20 clones, quoi. C'est sûr. Et alors, le petit Chris, il est aussi doué donc avec ses mains, il est aussi doué avec les rimes. Et il va lâcher un petit freestyle en radio qui est assez intéressant. Lova.
Ouais, il l'a dit, ouais.
Et donc, on connaît déjà, c'est ça qui est fou, c'est que.
On est en
97.
97, le mec a 20 ans.
Il a 20 ans. Il a percé, il a pas eu de. Bon, il était DJ, hein.
Ouais, mais il était pas précoce.
Il était pas précoce. Genre, c'était pas un rappeur qui a sorti des mixtapes, qui a fait le circuit normal, quoi. Lui, c'était vraiment DJ. Et puis, comme il était à l'antenne, il en profitait pour freestyler, lâcher des freestyles. Et il va être repéré par un certain producteur qui commençait à l'époque. Bon, il avait déjà. Il avait déjà une belle ceinture à sa. Avec Missy Elliott, c'est Tim Allen. Et Tim Allen va le repérer, il va l'inviter sur son album, son premier album, qui est le Tim's Bio From the Motion Picture Live From the Basement.
Live From the Basement, un jeu de mots entre bass et basse.
Pas mal. Donc il va l'inviter sur ce morceau. I'll be that nigga named Luda, aka L-O-V-A, L-O-V-A, fuck that shit, nigga, what you wanna say one time? Southside, let's ride. And if you love what you do, do what you feel, then I know you gon' mark my words. I drop shit like birds, and it's about the time for your ass to get served. Just lay it on down, yes, lay it on down. While we relax to the
Ah bah c'est des instrus, bon moi je dis plus rien.
Voilà, c'est du timbo.
Mais, disons, bah, c'est, oui, non mais ça va.
C'est, là, je pense que ça bounce quoi.
Non, il flex bien en plus. Ah, oui, non, dessus,
son flow il est incroyable.
Donc ça c'est le morceau qui s'appelle Fat Rabbit. D'accord, sur cet album donc qui a, j'imagine c'est du Timbaland, il
c'est
a du bien avant.
C'est que du Timbaland, peut-être Jamagou, peut-être sur deux trois trucs.
Ouais.
Et bon à cette époque-là, Timbo c'est un jeune producteur, hein. Il venait de sortir Missy Elliott, un gros carton.
En tout cas, à l'arrière du CD, il a quand même le regard du mec qui sait qui il est.
Il sait où il va. Ouais.
Et il sait où il va. Hein.
Je pense que Timbo n'a jamais eu de problème d'ego.
Alors que lui, je pense que même dans le bus, tu le croisais comme ça.
Ouais, c'est clair.
Le mec te toise. Hein.
Genre,
je suis pas n'importe qui, les gars. Ok, j'ai un pass Navigo, mais attention, moi plus tard, je serai quelqu'un. D'accord, donc ça a vendu combien? Ça a fait.
Ça a vendu 1 million.
1 million.
Ouais. 1 million à l'époque, on est en 98, donc ouais. Ça fait déjà 21 ans. Et c'est un morceau qui va avoir des répercussions parce que bah, il va exister. En tant qu'artiste, il va arrêter donc d'être DJ et il va commencer à être MC.
Donc là, à ce moment-là, on est d'accord, le mec, en gros, il a à son actif un freestyle avec du souffle.
Oui,
comme pas
plusieurs
possible,
freestyles,
hein.
Voilà. Ça, c'est une captation.
Tu m'étonnes. C'est une captation à côté d'un ventilateur depuis une voiture en marche avec une fenêtre ouverte.
C'est enregistré cassette dans la voiture.
Ouais, c'est ça, ouais. Sur l'autoroute avec les fenêtres ouvertes. Non, d'accord. Donc, il a juste ces freestyles-là.
Voilà,
en
exactement,
radio.
Exactement.
Et le mec, boum, il le met. Ouais, en plus, c'est même pas un titre qui a porté le truc parce que c'est un.
Non, c'est
le 11e track sur l'album.
Exactement, parce que c'est personne, Luda. Donc. C'est, je pense que c'est une façon de représenter. Tu sais, à l'époque, les artistes, quand tu viens d'Atlanta, c'est important d'être joué sur les radios. Tu vois, c'est comme on pourrait dire DJ Khaled à Miami, si tu veux exister, bah, faut que tu ailles sur la radio.
DJ Khaled.
Et je pense qu'à l'époque, Chris Lovalova, donc, ça devait être un animateur apprécié et populaire.
Du coup, là, il l'appelle comment? Ludicris, là, il l'appelait.
Ludicris, c'est le prix, ouais, c'était pas encore.
Performed by Ludicris, ouais. Mais Chris comme Christopher, ouais, donc C-H-R-I-S et L-U-D-I. Ludicris, ok. Et il y avait qui d'autre sur ce bordel-là? Static, je sais pas qui c'est. On regarde vite fait, hein.
Oh, oui.
En même temps, c'est notre émission, donc on fait ce qu'on veut. Alors, le mec, il s'excuse. Alors, Missy Elliott, bien sûr. Matt Skills, ok. Ah, bah, Jay-Z, d'accord. Mais sinon, après, en fait, il y a eu du bol d'être repéré parce que tous les autres que je vois, là, Lil Man,
la plupart, ce sont où sont.
Ah, Genuine, bien sûr, ouais. Ok. Keep it real, Genuine, les gars, accrochez-vous quand même. Kelly Price, elle n'était pas encore morte. Alia, bien sûr.
Oui, Alia aussi, oui, parce qu'il sortait de ça aussi, il avait fait le gros tube avec Alia.
Playa, oh, d'accord. Et que des artistes de troisième zone, c'est incroyable.
Eh oui, mais Timbo, c'est son premier album. Alors, c'est pas tout à fait le premier album, parce que le premier, donc, c'est Timbaland et Magou.
Ouais.
Et ça, c'est le premier album solo. Mais d'ailleurs, Magou est encore en photo derrière.
Est-ce qu'il faut en s'inquiéter? Parce que Timbaland et Magou, ouais. Bon bah, Magou, on l'a plus jamais vu. Show and AG, bon bah, AG, ouais. Voilà. Six and Daz, bon bah. Je crois que quand t'es derrière l'esperluette, c'est chaud pour ton cul.
Corps et scalp.
Ouais, corps et scalp.
Même si scalp, il a fait sa petite carrière.
C'est l'inverse là. Oui. Enfin bon, bref. Ok, donc. Première apparition en 97 sur cet album, cette compilation de Timbaland.
Ouais.
Et après.
Et donc là, ce qui est bien avec Ludacris, c'est que il est smart. Il est vraiment, il calcule vite, il est percutant. Ça se ressent même dans ses rimes, il est riche. Et là, il va tout de suite avoir une idée de directement créer un business. C'est-à-dire que.
Avant de sortir un album, mec. Hey.
Ah non, mais vraiment. Et donc, il va créer avec son manager, Chaka Zulu, qui est maintenant quelqu'un de hyper.
Chaka Zulu, quand même, excusez-nous. Pardon.
Et il va créer le DTP, le Disturbing de Piste. Et c'est un label qui a pour but, le but, vous allez voir, c'est un but assez modeste, de démocratiser le son Dirty South.
Ah bah oui, un but très modeste.
Parce que, alors, autant T.I. c'est la trappe, que c'est vrai que Ludacris, il a un son Dirty South. Alors, on va essayer de
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Bon courage.
Alors, oui. Bah, le son Dirty South, c'est festif, c'est bouncy, alors que le son trap, il est plus rugueux, animal, plus dur. C'est difficile d'expliquer.
Je le laisse. Tu vois, il va sortir les rames bientôt.
Après, la trappe fait partie du Dirty South, quelque part. Parce que ça fait, tu vois.
Ouais, donc là, tu sais, il a bien expliqué la différence pour dire qu'au final, bon, bah, tout ça, c'est pareil.
Et tout ça, c'est pareil, mais c'est important parce que c'est vital. Parce
c'est
que...
quoi le son du Sud? En fait, le Sud, c'est quoi? C'est la soul food, c'est riche, c'est rond, c'est quoi alors? Parce que Outkast. C'est un pur
bien
produit
sûr,
du
bien
Sud.
Bien sûr, oui.
Tous leurs sons, toutes les prods d'Organize Noise, c'est. Mais c'est acoustique, alors là.
Ouais, c'est exactement, c'est ça. Outkast, c'est encore différent. C'est, comme tu dis, c'est plus acoustique, c'est plus musical.
C'est du Dirty South.
C'est du Dirty South parce que c'est d'un point de vue géographie. c'est Dirty South. Mais le son Dirty South, pour moi, c'est...
Tu sais, si tu regardes bien...
Cash Money, par exemple, Cash Money Millionaire, c'est le son Dirty South, par exemple.
Oui, mais le problème, c'est que, en fait, j'ai fait mes calculs. Il y a plus de... Enfin, les deux plus grandes parties des États-Unis sont... au nord et au sud, puisque c'est un putain de rectangle. Donc ton Dirty South, il part de Tijuana à gauche, jusqu'à Miami à droite, mais en fait tu passes par Baton Rouge, la Nouvelle-Orléans, Atlanta, Houston. Donc en fait c'est pas possible d'avoir un son Dirty South.
Et non, c'est pour ça que je te disais que c'était modeste sa prétention, parce que il veut porter le son Dirty South sur ses épaules.
Ouais, donc mec, quand il dit je suis du sud, sous-entendu le mec il représente une côte sud qui fait à peu près 5000 miles de large. Donc c'est comme si les mecs de Marseille disaient ouais, nous on représente le son de Marseille en parlant des gars qui sont aussi à Naples, à Constantinople et je sais pas où quoi. Enfin bon. Quel pays de fou.
En remettant dans le contexte aussi, mid 90, le son d'Atlanta n'est pas aussi populaire et connu qu'il est à l'époque, qu'il est aujourd'hui. À l'époque, c'est surtout, on sort encore d'une époque, New York, Los Angeles, et le son d'Atlanta, il devait sortir, il était connu, ça, il commençait à fleurir, mais c'est pas encore la grande vague qui va arriver fin 90, début 2000, avec justement No Limit, les Cash Money, et Ludacris, et T.I. Il y a vraiment une grosse vague qui va arriver.
Donc ça veut dire que là, justement, tu parles de la fin 90, donc là, en août 99, le mec sort son premier album qui s'appelle... Attends, t'as pas le droit de le dire. Moi, je peux le dire. Toi, t'es obligé de biper le mot. Voilà. Parce que le nom de l'album s'appelle, attention...
Après, c'est d'espagnol, hein.
Oui, c'est vrai. Il s'appelle Inco Negro. Inco Negro, donc avec... Ah, tu l'as le son, là
Bien sûr.
Allez. Dirty South.
Apprends le vocabulaire avec Ludacris. With whole tendencies, hoes are your
friends, hoes are your enemies. With whole energy to do what you do. Donc, si je m'en réfère à ta définition de Dirty South avec ce que je viens d'entendre, il faut juste avoir un 808.
Oui.
Utiliser tous les charlets claqués là tout de suite.
Très fort aussi.
Oui, et avoir un son mal équalisé. Ok, voilà. Donc ça s'appelle, le morceau s'appelle Ho. Ho,
tout
qui
simplement.
Est bien entendu le diminutif de whore. Pour qualifier la gente féminine, encore une fois, nous sommes en 1999 à l'époque. Autre temps, autre mœurs. La prod est faite par un mec qui s'appelle Bangladesh. Ouais. Et là, encore une fois, rien que pour ça, il mérite de pas l'écouter. Parce qu'on l'avait déjà entendu, Bangladesh, sur du TI, j'imagine. Voilà, donc, on n'est pas dans le flipper, mais on n'en est pas loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, alors
C'est son premier titre. Alors, ça sort en indépendant.
Oui, Inco Negro, c'est indépendant. Parce que de toute façon, il aurait pas pu l'appeler comme ça et le mettre en magasin. Donc, voilà.
Et donc, il va sortir ça en 99. Et donc, comme on dit, label indépendant, il va en vendre 50 000. 50 000, on disait, c'est respectable.
C'est pas
extraordinaire, mais c'est respectable.
Bah, c'est bien.
Te permet, en fait, d'avoir une démo tape, mais qui circule.
Ouais. Tu vois 50 000 en France, Pascal Négueuse, il te suçait la bite. Hein.
Pascal Négueuse.
Ouais, Pascal Négueuse. Pascal Nègre, bien sûr, Universal. Ah, qu'est-ce que c'est dommage qu'il nous ait quittés. Il est mort ou pas? Non, il est pas mort.
Non, il s'occupe de M6, le label.
Ok.
Sur M6.
Alors, vu que c'est certainement un de tes collègues ou un de tes patrons, j'en parle pas trop, mais voilà, Pascal Négueuse. Donc, il en vend 50 000 en indé, c'est cool. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de ça, toi?
Il va, en fait, cet album va lui permettre de mettre en avant sa signature vocale.
Tu l'as l'album ici là?
Non, je l'ai pas celui-ci. Je l'ai pas. Il est super dur à trouver d'ailleurs.
C'est vrai?
Ah ouais, il est assez rare à trouver. Et donc voilà, son flow c'est la définition de flow de Ludacris qui est unique. Hein. C'est vraiment, il a son flow à lui, ce qui est rare déjà dans le rap game de se définir par un flow. Et lui, il le définit comme fast, wild et comedic flow.
C'est-à-dire qu'il parle comme ça.
Voilà.
J'adore.
Il fait très bien,
alors, au cas où les gens ne l'auraient pas compris, j'aime pas du tout Ludacris. Non, je plaisante. J'aime bien certains trucs, mais c'est vrai que moi, de par ma qualité de total moldu du rap, je connais rien. Moi, ce mec-là, je le connaissais pas encore en 99.
Ouais.
Tu vois,
on
n'avait pas entendu parler. Alors que bon, 50 000. Hein.
Ouais.
Quand même.
Ouais. Non, 50 000 en indé, comme je te dis, ça permet d'avoir du buzz. Parce que tu directement, il y a le billboard indépendant. Et 50 000, tu dois faire une belle place. Et les maisons de disques, forcément, elles reçoivent le billboard, le magazine. Et elles te voient, ah, tiens, avec un flow.
Ah, tiens, on va le signer.
Ouais,
hey, on est qui chez Columbia? Bon, droppez-moi quelqu'un. Non, alors là, du coup, il signe chez qui, lui?
Il va signer chez un nouveau label.
Ah oui, que personne connaît.
Voilà. Ah, Def Jam.
Ah, bah oui.
Mais South. Def Jam South qui vient d'être créé, donc par Simon et Scarface. L'autre légende du
Mais Scarface, c'est Houston.
Ouais.
Encore une fois, hein, le sud est très large. Hein.
Et donc, ça va être la première signature de Def Jam South. Et il va sortir un deuxième album qui est en fait un repompé du premier album qui est sorti en indé. Ils vont le reprendre, ils vont enlever trois titres. Le titre de l'album, c'est Back From The First Time. Et ça va sortir avec ce titre.
Alors moi je le dis, il y a aucune putain de chance que ce truc touche mes enceintes, mais bon. Puisqu'ici on ne se respecte
gros
plus.
Carton, ça, gros carton. Ah bah oui, ça c'est vraiment, ça a tourné pleine patate. C'est premier single, premier tube.
Mais là on capte l'ambiance. Hein.
Ouais.
On capte bien l'ambiance, les petits adlibs féminins, syncopés, bref.
Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à expliquer son nom,
Ludacris.
Voilà, Ludacris, parce que ça vient de Ludacris.
Voilà.
Et Ludacris. Qui signifie amusant, absurde, exagéré.
Qui est Ludacris, pour moi, c'est délirant.
Ouais, c'est ça.
Et c'est d'ailleurs un des les gens maintenant connaissent Ludacris depuis le célèbreissime Elon Musk et sa Tesla, puisque c'est un mode de vitesse, Ludacris Speed, qui est encore faster than light, tu vois. Donc quand tu veux vraiment l'accélération complètement délirante, tu mets sur Ludacris, qui est évidemment pour, parce que Elon Musk étant Elon Musk, qui fait des clins d'œil de pop culture que tout le monde a archi grillé, c'est un hommage à Spaceballs, la folle histoire de l'espace, et la Ludacris Speed, parce qu'il se foutait de la gueule de la guerre des étoiles.
Ouais, très bon.
Voilà,
très
c'était bon. Un petit point ouais, pop culture.
C'est bien.
Donc ça prouve que le mec aime les calembours, au cas où un conégro vous aurait pas convaincu. Donc tout son truc, en fait, hein, il a développé un univers. Moi, en fait, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai entendu parler du gars.
Ouais.
Et pour moi, c'était un genre de sous-Busta.
Ouais, c'est vrai qu'il est Busta souvent comparé. Rhymes. Il est souvent comparé à Busta Rhymes.
Parce que Busta Rhymes, c'est justement le rappeur de New York qui, évidemment, arrivait juste avant, après le Wu-Tang, ouais. Nas, Jay-Z, M.O.P. Non, pas M.O.P. Si, peut-être M.O.P. déjà. Onyx et tout ça. Et lui, il arrivait avec un style complètement délirant de cartoon, avec Hoorah.
Ouais, grave.
Mais le mec, en fait, il crunchait les micros.
Ouais.
Donc on note que pour être rigolo au micro, en fait, rigolo, c'est cool. Mais ça sous-entend quand même que t'es un monstre.
Ouais, oui, complètement, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est ce qu'il y a de plus dur.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas être juste rigolo et nul, en fait. En fait, si t'es rigolo, c'est qu'en fait, ouais, je fais ça sans forcer.
N'empêche que ça soit très drôle.
Oui, c'est vrai. Un MC rigolo, mais complètement à chier. Bon, on doit en trouver peut-être un ou deux, tu vois, pour réussir à faire mentir le truc. Mais alors, donc là, j'ai, donc, Back for the First Time.
Comme je te dis, ça a repompé du premier album qui est sorti en indé. Ils ont enlevé trois titres.
Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que le mec, il sort un deuxième album qui est en fait finalement le premier, mais en plus, il enlève des titres.
Voilà. Parce que bon, il doit être obligé d'enlever quelques titres, il a dû en rajouter peut-être un ou deux. Et surtout pour la maison 10, c'est une aubaine parce qu'ils ont quasiment rien touché, quoi.
Et alors là, ouais, bah oui, du coup, c'est gratuit pour.
Ouais, bah oui. Et
donc là, on voit bien Disturbing the Peace, hein, DTP.
Oui, ouais, DTP. D'ailleurs, ils vont signer un label deal. Hein. C'est un label deal qui sera signé, c'est Ludacris et son label. C'est marque bien encore une fois. J'ai envie de dire l'intelligence de Ludacris ou aussi de son manager, parce que un artiste est c'est avec un manager. Moi, je dis toujours que un mauvais artiste et un bon manager,
ça marche,
mais un bon artiste et un mauvais manager, ça marche pas.
Ouais.
C'est un couple, en fait, qui marche toujours. C'est toujours ça qui est intéressant, ces histoires de couple. Et avec Chaka Zulu, justement, ils vont signer un label deal chez Def Jam. Ils vont signer carrément le label. C'est fort, parce que déjà, d'un point de vue business, tu touches beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que tu récupères des budgets tous les ans pour sortir tes artistes.
Et là, comme avec les célébrissimes Rough Riders, hein, où en fait, la moitié du truc, c'est un catalogue de la redoute hein, dans le livret. Là, les mecs, donc évidemment, à la fin du livret, qui est quand même bien fourni, hein, avec des photos pleines pages hein, de son équipe.
Des photos de vacances.
Hein, parce qu'il fait trop chaud. Voilà, on
est
tous chauds, mais on est quand même huilés. Et ils ont donc, évidemment, toutes les sorties du label Def Jam South à venir. Et puis aussi, du label Def Jam tout court d'ailleurs, donc on voit qu'il y a Method Man, DMX, Redman, etc. Et puis, Disturbing the Peace, Click, Golden Grain, ensuite il y a Infamous 2-0, Strength in Numbers, enfin en gros le mec il déroule, donc c'est que des coming soon.
Ouais, bah oui.
Là en fait on a 4 albums qui vont coming soon.
Mais tu sais, c'est ce qui est marrant, c'est souvent tu regardes, c'est souvent les labels qui vont ça, c'est qu'en disant et en annonçant les sorties, tu chopes des budgets, tu vois. Donc pour chaque artiste, t'as un budget. Et après, tu en fais ce que tu veux quand t'as un label.
Bah c'est marrant parce que du coup, en fait, il annonce donc 4 albums, 3 qui sont d'autres artistes que lui, plus le crew en coming soon. Et après, le quatrième album, c'est Ludacris, Word of Mouth. 2001, même pas genre février machin 2001. Après démerdez-vous. Et ça tombe bien finalement parce que est-ce que c'est justement Ah oui, ça sera. Ah non, toi, tu vas. Oh là là, mais c'est incroyable, en fait. Ah oui, donc toi, t'as triché, tu mixes les Disturbing the Peace.
Ah oui, et voilà, exactement. C'est, on fait par ordre chronologique.
D'accord, ok.
Par ordre chronologique.
Donc là, cet album. Ah, mais non, mais si, c'est bon, en fait, pardon. Excusez-moi, je suis complètement en train d'essayer de faire un. De comprendre, en fait, de quoi on parle, parce que cet artiste, je le connais pas. Donc cet album-là, donc Back for the First Time.
Back for the First Time, mais il va.
Il fait combien?
Il fait 3 millions. Pas mal. Pour une première sortie, c'est pas mal.
Ah bah là, normalement, Columbia, il commence à dropper un artiste pour faire la place.
et d'ailleurs, dans cet album, il y a mon titre préféré, Ever, de Ludacris, c'est celui-ci.
On dirait une démo de Psygnosis sur Amiga, quoi. Cadillac grills, ah non. Cadillac mills, check out the oil my Cadillac spills. Matter of fact, candy paint Cadillac kills. So check out the holes my Cadillac fills. 20 inch wide, 20 inch high. Hold on to like my 20 inch. Ah là, ce titre, je l'ai.
Attends,
dis pas le nom du morceau, je vais essayer de l'identifier moi-même. Il parle de calandre de Cadillac et de taille de jante.
C'est un classique, hein. C'est Southern Hospitality.
Ah, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Southern Hospitality. Avec Pharrell en feature.
Ouais, et à la prod, c'est les Neptunes à la prod.
Ah, bah maintenant que tu le dis, oui, c'est évident.
Ouais, c'est vrai.
Maintenant que tu le dis, c'était pas évident.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ça veut dire que sur ce. Ouais.
Ça, c'est un gros carton.
C'est officiel premier album. Ouais. Au niveau de la. Parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément abordé. Qui est-ce qui fait les prods chez lui? Il pioche à droite à gauche.
Il
n'a pas un producteur à titre.
Non, tu le verras. C'est vraiment. En fait, encore une fois, on va revoir les mêmes producteurs qu'on voit d'habitude. C'est ça qui est. Cette période-là, elle était monopolisée par une vingtaine de producteurs. Là aussi, ça s'explique aussi d'un point de vue business, de talent déjà, mais aussi d'un point de vue business parce que les producteurs sont souvent signés dans les labels, les proues, c'est une question d'édition. Et donc, en fait, on fait tourner la machine. Et en faisant tourner la machine avec les mêmes personnes. Et donc, cet album. Son premier album, donc il va faire un gros coup, puisque 3 millions, c'est pas mal, hein, quand même, aux États-Unis. Alors, on parle chiffres aux États-Unis.
3 albums, 3 millions aux États-Unis, on est du coup là en 2000.
Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Et, comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud.
À l'américaine.
Voilà. Directement, l'an 2001, donc, comme tu l'as dit, c'était signalé.
Ouais.
Et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Bon, novembre 2001, les mecs, ils se raccrochent, hein, de justesse.
En octobre, ils ont dû être, bon, les gars, faut y aller, là.
Faut le faire, l'album, hein. Ok. Donc là, c'est le troisième album.
Word of Mouth.
Avec. Eh oui. Il a des putes.
Il a
dans
du budget.
Tous les codes régionaux.
Mais il a des budgets, surtout.
Oui. Il rappe bien,
Ça c'est tube. Là, j'ai dit même ma mère, elle danse là-dessus.
Oublie pas quand même que les gens qui nous écoutent, c'est des graphistes freelance. En 2001, soit ils étaient pas nés, soit ils écoutaient du rock, comme tous les graphistes freelance qui se faisaient taper à l'école. Le harcèlement, c'est mal, ok. Mais je pense que personne, enfin. Les gens qui ne sont pas habitués au hip-hop ont peut-être entendu ce truc-là de loin.
Oui.
Certainement d'ailleurs dans un film en musique de fond, là, pendant une scène de pique-nique ou de barbecue.
Ou sur une vidéo VHS.
Parce que ça s'y prête, hein, effectivement.
Avec
donc, ça, c'est le morceau, bien sûr, qui s'appelle Area Code, hein, parce que là, on parle des codes régionaux que tu mets avant les numéros de téléphone.
C'est
hein.
pour ça qu'il parle à chaque fois des 718, 212.
212, 213. 213, d'ailleurs, le groupe de Snoop, Nate Dogg et Warren G, 213, c'est le code que tu
Long
as
Beach.
Quand tu es à Long Beach, exactement. Et donc, Nate Dogg en featuring, Jazzifa au niveau de la prod. Et là, on est dans la période où Jazzifa, il envoie.
Il est super loin.
Il est incontournable avec les Nappy Roots et tout, c'est des trucs de merde là. Donc, pardon, ça s'entend que... Non, non mais moi, je plaisante, mais ce morceau, je l'ai très bien aimé.
Ah, ça, c'était un morceau, c'était idéal.
Ouais.
Il est sorti à une période...
Et d'ailleurs, donc là, l'album, c'est Word of Mouth.
Word of Mouth.
Avec
une très bonne pochette, hein. La pochette que tu préfères.
La pochette, je trouve, c'est la meilleure.
Ouais.
Elle est, mais parfaite. Franchement, c'est donc Ludacris avec un Pitbull qui sourit à pleines dents.
Qui sortait du dentiste.
Avec des dents en or, avec une déformation pour faire un peu grosse tête et petit corps.
C'est les débuts de Photoshop.
Non, mais franchement, moi, la pochette, je la trouve ultime, quoi.
Ouais, elle est forte.
Le pit, il est garanti. Moi, c'est vraiment à ce moment-là, avec cet album,
comme tout le monde, en fait, que
j'ai connu Ludacris.
Avant, je pense qu'il valait de la région.
Ouais. Mais ça, vraiment, du coup, alors, il en a fait combien?
Il va en vendre 4 millions. Ah bah on monte, on progresse.
Le mec est pour l'instant il tient.
Ah non, mais là à ce moment-là, Ludacris il va s'imposer comme le rappeur festif.
C'est-à-dire alors, c'est quoi un rappeur festif?
Un rappeur festif, c'est quelqu'un qui parle pas de choses sérieuses, de gang, tout ça, qui est là pour faire la fête, qui est là pour que sa musique soit jouée en radio, qui est là pour que sa musique soit jouée en club, et qui parle de choses un peu surfaites, hein, de choses
party,
légères.
Party and bullshit. Donc, voilà. Concrètement, aux États-Unis, hein, quand t'es noir et dans le hip-hop, soit t'es un gangster, soit t'es un rigolo.
Ou un discours politique, ça. Je sais pas où c'est à voir. Il y en a un peu, mais.
Il y en a très peu.
Il y a une école quand même qui avec les Lupe Fiasco et tout ça qui continue à faire.
Enfin, Lupe Fiasco, son morceau le plus connu, c'est un morceau sur le skateboard, c'est pas un morceau sur.
C'est ça aussi le dilemme, c'est que quand tu fais quand t'as un discours politique dans ta musique, t'es quand même obligé d'avoir un morceau radio. C'est souvent le dilemme, tu vois.
Pas du tout. Tu prends mon gars Paris, Sonic Jihad, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais Paris, c'est pas vrai. Oui.
Sonic Jihad avec la pochette, c'est un Boeing qui fonce sur le Capitole, genre tout va bien. Bon, bah lui, il est jamais passé en radio, mais.
Tu vois, après, c'est des choix. Tu peux très bien de pas.
Trouve-moi un artiste qui a réussi à être connu.
Common Sense.
Ok.
Quand même, aux États-Unis surtout. Hein, aux États-Unis.
Ouais, donc Common maintenant, puisque lui aussi d'ailleurs il est acteur. Ça a tellement bien marché pour lui qu'il a arrêté de chanter. Mais oui, effectivement. Alors, ok, donc il y avait trois panels. Alors, soit t'étais gangster, Mob Deep, Snoop, Watts, tout ce bordel là. Soit t'étais Party Man. Ludacris, Fabulous, tous ces cons en survêt qui brillent. Soit t'étais afrocentrique.
Voilà.
Common, Mos Def, Talib Kweli.
Exactement.
Mais du coup, ils sont quand même quelque chose.
Oui, bien sûr.
Ils sont pas rien. Ils sont pas juste je paye mes factures et je suis un homme normal.
Complètement. De toute façon, le hip-hop, par définition,
je suis pas d'accord. Moi, je veux être un homme normal. Voilà. Je fais un album de mec normal qui travaille de 9h à 18h. Voilà. Et le soir, tu rentres et tu regardes la télé.
Chérie,
t'as fait
quoi? T'as posé ton flow?
Big Flo et Oli nous dit Ghislain, preuve qu'il s'y connaît en rap. Je ne dirai rien sur Big Flo et Oli, les mecs font leur truc.
Bien sûr.
Je les insulterai plus tard. Alors du coup, pardon pour ces digressions, mais en même temps,
c'est bien de. En fait, le hip-hop, c'est pas juste une musique, c'est aussi un genre.
Mais c'est un lifestyle, et moi, ça m'emmerde un peu de dire soit t'es gangster, soit t'es backpacker, soit t'es skater.
Ouais,
c'est chiant. Quoi. Soit t'es noir, soit t'es blanc. Bref.
Bon, souvent, tu dois choisir quoi.
Ouais, noir ou blanc, ouais, ça c'est sûr. Enfin bon. Alors du coup, là on en est donc à son troisième album. Donc là il a fait 4 millions, 3 millions.
Tout va bien pour lui, il s'impose vraiment. Là, à ce moment-là, Ludacris, si tout le monde connaît, même Skyrock l'ont joué ce morceau.
Celui-là, partout. Ouais.
Et donc il va être aussi nominé au Grammys. Mais en face de lui, comme tous les ans, il y a Eminem. Et à cette époque-là, Eminem.
Il fallait mieux être blanc.
C'est un peu comme le Pokora au Energy Music Award. C'est-à-dire que t'as aucune chance, en fait. Tu vois? Donc, avec Eminem.
Alors, c'est marrant parce que du coup, on est vraiment dans une période de rappeur rigolo, quoi. Enfin, rigolo, tendance psychotique.
Ouais, c'est vrai. Eminem, c'est vrai que c'est exactement. Slim Shady, c'est exactement ça.
Ouais, c'est ça. Donc, là, on était.
Là, on est en 2001, c'est exactement ça.
Et pendant ce temps-là, The Chronic 2001 était déjà sorti.
Oui, il est sorti en 99.
Ouais. quel rigolo, ce Dr. Dre. Il a brouillé les pistes.
Merci d'être là.
Parce qu'ils ont fait Chronic 2000 avant lui. Ouais.
Alors qu'il avait annoncé pendant 2 ans, 3 ans, Chronic 2000.
Après, c'est le problème de Dre, c'est que le mec, on est en 2019, il a fait 3 albums. Donc, on devrait faire un Six and Dust sur
mais
lui.
Mais t'as vu, ils annoncent Kanye West, Jesus Christ Part 2. Kanye West, Dr. Dre. Ils ont tweeté ça hier, où je vous parle. Ouais. Il y a la photo en studio, tous les deux.
Dis donc.
Ouais.
Voilà, il y a les maisons de disques qui commencent à dire.
Et ça sortira jamais.
Sors les chéquiers, bordel, ça a coûté une fortune. Ok, donc, retour à notre ami Luda. Du coup, là, plutôt que de battre le fer avec un troisième album,
là, ils vont faire classique, le schéma classique, c'est-à-dire on sort l'album du crew. C'est-à-dire deux albums d'artistes qui marchent bien, on a l'exposition, on sort l'album du crew.
Alors, avant de le lancer, on est d'accord que ce schéma fonctionne jamais, en fait.
Il fonctionne rarement.
Voilà, ok, c'était juste pour être sûr.
Il fonctionne rarement parce que, en fait, l'album du crew, en fait, comment ça se passe, c'est qu'ils enregistrent, tout le monde enregistre des morceaux, puis à la fin, la maison disent, ils font, il faudrait plus de Ludacris là, sur la 1, sur la 2, mettre un peu de Ludacris sur la 3, sur la 4, sur la 5. En fait, en gros, tu te retrouves avec un album solo de Ludacris, quoi.
Avec plus de featuring, mais d'accord.
Et donc, ils vont sortir ça, les DCP, c'est un album qui s'appelle Golden Grade.
Golden Grade.
Avec ce morceau.
Oh, ça, c'est bien. Il y a un sample pitché. Ok, I remember the days.
high rights, low left, even Stevens and Fades, troop slidos and BKs, high tech boots, spray painted with your name, t-shirts, airbrushed, they're red the same, they carrying bone chain, with your initial, Harry's photos, group shots, can you remember? Ça, c'est un morceau avec en featuring Scarface.
Alors, excusez-moi, mais c'est très bien ce morceau.
C'est excellent. Excellent.
Comme quoi, hein, on peut ne pas aimer un artiste, mais reconnaître la qualitaire. Ça s'appelle comment ce truc-là ?
C'était... Ça s'appelle Growing Pains.
Growing Pains.
Le remix, non, parce qu'ils ont rajouté Scarface.
D'accord, avec Lil Fate, Shona, Ludacris, Scarface et Keon Bryce, j'en connais aucun. Ouais.
C'est un très, franchement, c'est un bon album. Là, on parlait de. T'as un très bon album de Crew, où justement Ludacris, c'est pas trop en avant, il est sur quelques morceaux. Et c'est bon, après, la pochette, c'est quand même marqué Ludacris présente, tu vois.
Ouais.
Ils sont obligés de.
Ludacris présente Disturbing the Peace, voilà. Donc DTP, Golden Grain. Et il est où sur la pochette ? Bah, il est au milieu, assis sur la chaise, tous les autres sont debout, ouais. Bien sûr, évidemment. Non, mais bah, franchement, c'est tout le reste de l'album.
Non, il est vraiment bien, il est comme ça, il est frais. C'est un album que tu oublies vite, hein. Tu l'écoutes.
Bah, du coup, il a fait combien ?
Il va faire 500 000. Il va faire disque d'or.
Ouais,
aux États-Unis.
Au format américain, c'est bof.
Ouais. Mais franchement, c'est un album ça qui a pas dû coûter grand chose. Ils l'ont fait entre eux. 500 000, je pense qu'ils ont dû.
Ouais, ils
ont
revenus sur
là. Et
sur
ça permet surtout à Ludacris, tu sais comment ça se passe, c'est les crews de faire vivre son équipe. Après, ils partent en tournée ensemble. Tu fais une première partie, tu viens sur scène, on joue l'album tous ensemble, c'est la fête. Ça permet aussi, tu vois, en fait, ils sont pas redevables. C'est toujours ce que j'ai perçu. Les MC, c'est pas qu'ils sont redevables de leur équipe autour, mais c'est une façon de remercier tout le monde aussi, l'album.
Ouais,
de
mais
Crew,
si, c'est pas, ça, c'est, le hip-hop est connu pour ça.
Bien sûr,
pour faire croquer, les mecs qui sont là depuis le début.
Exactement.
Et alors, je le dis, faire croquer les mecs qui sont là depuis le début, totalement indépendamment du niveau des mecs en question.
Ah, bien sûr.
C'est-à-dire que tu peux faire poser des gros whacks. Alors moi, j'ai un théorème sur tout groupe qui perce. Il y a toujours
un whack.
Non, c'est pas que c'est un whack, c'est le mec qu'on appelle. On appelle ça l'anyens. Tu vois, c'est l'ancien.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le grand. Tu vois.
Et
franchement, j'écoutais. Comment ils s'appellent les petits de ce rang là, 13 blocs.
Ouais.
Avec justement un de mes potes d'enfance.
Ouais.
Et donc, le morceau tourne, et là, d'un seul coup, t'as Stavo qui arrive. Et là, bon, tu fais, ah, ça, c'est l'ambiance.
Ouais, c'est toutes les histoires.
Tu sens
le mec qui connaît toutes les histoires du quartier.
Tu sens surtout le niveau baissé d'un seul coup, comme s'il y a un mec qui est arrivé, qui a fait, OK, le niveau de skill, tu sais, genre, le thermomètre de skill, on met la clim.
C'est vrai, mais c'est ça, parce que tu vois bien l'ancien qui arrive en studio, tout le monde parle plus. Fait, oh, moi aussi, je pose.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, moi aussi, j'ai quelque chose à dire.
Alors, du coup, le mec compense, en fait, avec le vécu, ce qu'il a en talent.
C'est ça, voilà, exactement.
Et du coup, quand c'est bien équilibré, ça passe.
Ça passe bien.
Dans 13 blocs, ça passe ultra bien.
Grave.
Par contre, par exemple, dans la Funky Family, ça passe pas du tout.
Ouais. Mais là, c'était plus le pote, c'était même pas l'ancien, Menzo.
Ouais, c'était juste le pote qui était nul. Ouais, Menzo. Menzo, franchement, il a fait du mal à la communauté comorienne.
Mais il a eu son, mais quel buzz, Menzo.
Ah oui, parce que ce n'est plus l'heure de faire dodo.
Oh putain.
Ouais, on disait qu'on était mort. T'as même sous un cadeau. C'était une catastrophe. Franchement, Menzo.
Mais toujours, mais avec le sourire, parce qu'il se prenait pas au sérieux.
Bah, surtout que personne ne le prenait au sérieux, mais c'est aussi. Mais si, parce que du coup, sur les photos d'albums de la Funky Family, ça faisait stylé, tu vois.
Bien sûr.
Parce que du coup, c'était un peu post-victoire de l'équipe de France, tu vois. Donc, Black Blamber, tu vois. Ah ouais, c'est tout le monde est représenté et tout. Mais en fait, c'était le plus wack du groupe. C'était le mec qui avait le plus de style.
Et ce qui est fou, c'est que tu te dis, ses potes l'étaient pas, quoi. C'est pas possible. Ses potes, tu lui disais.
Ouais, franchement, c'est chaud d'être là.
On fait
un Six Senda sur la Funky Family. Mais franchement, quand t'es dans le même groupe
que
Laura Luciano ou Sat. Avoir cette absence totale de niveau, c'est limite un effort.
Franchement, le rat, il aurait pu l'aider, lui dire pose comme ça. Bon, après, il y a une question d'ego, je pense pas qu'il se serait permis de faire ça.
Non, mais je veux dire, normalement, juste en récupérant les déchets de tes copains, t'arrives à faire des couplets qui pètent.
Mais est-ce qu'en France, on est prêt? Est-ce que le hip-hop français est prêt à avoir du ghostwriting? Pas sûr. Hein,
bah, on en a, tu rigoles.
Ouais, c'est vrai. Hein,
ouais, sauf que Socrate.
Moi, j'en ai jamais vu, hein. Pourtant, j'ai pas mal bossé.
Socrate,
j'en ai jamais vu.
Cynique et tout, ils écrivent pour. En général, ils écrivent pour des meufs de R&B. C'est marrant ça.
Pour du R&B, mais est-ce qu'en tant que rappeur.
En tant que rappeur.
Tu vois, c'est pas sûr. En France, on a un ego qui fait que c'est ça la fout mal si en plus tes potes tu vois que c'est quelqu'un d'autre qui va poser ton flow, il faudrait faire en catimini chez soi quoi.
Ouais, c'est vrai que on est pas encore assez mature. Ouais. C'est con, ça fait quand même 35 ans qu'on rappe. Bon. Alors donc pardon pour cette digression encore une fois. Donc on a dit qu'il a fait Gold, le Golden Grain.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un album de Crew parce que c'est vrai comme tu dis souvent ça marche pas, c'est des albums qui fait direct. Et en parallèle de ça, il va commencer une petite carrière au cinéma. Luda. Il va commencer dans un film, une pièce.
Un film.
The Wash. Mais tu peux nous en parler.
Non, mais la BO de The Wash, elle est ultime.
Ouais, c'est vrai.
Elle est totalement folle. Ouais. Après, il y a qui dans c'est The vrai. Wash? Il y a DJ Pooh, il y a Dr. Dre.
Snoop.
Il y a Snoop aussi.
Oui, bah oui, Snoop avec son truc de douche là sur la tête.
Ah oui, son bonnet de bain. Ouais, là, ouais. Donc c'était ouais, c'est bah ça c'est les films de Blaxploitation, donc les films de hood, hein, les films de, ouais, de ghetto qui surfaient sur Friday.
Complètement, c'est exactement ça.
Et, ouais, et tous les autres films du même style. Ouais. Je suis en train moi de me reconstituer hein, ce que j'appelle le vidéo club du ghetto. Donc je suis en train de télécharger plein de films de merde comme ça. Je commence à avoir un sacré paquet hein, de. Ouais.
Bah c'est les films popcorn. Quand c'est vraiment tu te mets devant, ouais, la télé. Tu
mais par contre alors attention parce que tous ces films de hood là,
ouais,
à chaque fois ils sont accompagné par des bandes son mais de tarés.
C'est là, tu vois que c'est des films de musicos quoi, tu vois.
Ouais. C'est bon, on est nul en acteur. Par contre, du coup, ça nous fait un clip d'une heure et demie. Alors, mais les mecs, ouais, ils t'envoient mais l'artillerie, ouais, lourde. Et franchement, la BO de The Wash,
ouais, bah le. Je me rappelle encore la cover orange et tout ça.
Ouais. Ouais. Et le morceau titre avec Nocturnal, bah, c'est Bad Intentions.
Ouais, ouais, exactement. Ouais, la classique. Ouais, ouais, exactement.
Avec,
ouais,
le sample,
ouais,
de flûte.
Classique.
Ouais,
ouais, et surtout ça, The Watch, on sait pas si on se rend compte en France si ça a marché ou pas, mais aux États-Unis ça a cartonné.
Non, en France c'est différent, il y a, ouais, pas de. Parce c'est que déjà ces films-là, en fait, chez nous ils arrivent direct en vidéo, tu les vois nulle
part.
Mais
comme tu dis, on a un problème de doublage, c'est pour être Joe Star.
Ouais, Joe Star et Oxmo Puccino.
C'est souvent ça, hein, tu vois. Voilà. Donc bon.
J'ai essayé de revoir Belly, hein, on en avait parlé pour l'émission
t'as
de
David. T'as monté la luminosité à fond.
Et en fait, je l'ai relancé, et ouais, la scène, c'est la scène d'ouverture, en fait, ouais, hein, quand ils rentrent dans la ouais, boîte. Ouais, et, ouais, et tu vois que les mecs, ils ont mis des lentilles exprès pour que ça brille dans le noir en ultraviolet, donc c'est, ouais, débile, mais franchement, il y a un style.
Ouais, il y a un style, c'est vrai qu'il y a un style.
Putain, que de digression. Ouais.
Non, mais bizarre. C'est ça, c'est une émission, la musique est juste c'est juste une raison de se réunir entre nous.
Bah alors, et du coup, donc,
il fait The Wash.
Il fait The Wash.
Voilà. Et mais là où il va vraiment commencer à être connu du grand public,
bah oui,
c'est qu'il va faire une apparition, ou même plus qu'une apparition, bah un second rôle, on peut dire même.
Ouais,
un second rôle.
Okay, ouais. Ouais.
Et dans le deuxième film de la série à succès,
Fast and Furious,
avec là, c'est Too Fast, Too Furious.
Ouais, c'est le numéro 2.
Ouais. Ouais. Avec ce titre. Too Fast, Too Furious. I'm too fast for y'all, man. Drive too fast, drive too furious. Oh, I'm too fast for y'all. Oh, you just came home from doing a bid. Tell me what you gon' do. Act a fool. Somebody broke in and cleaned out. Alors le acte full après ça va devenir un gimmick hein. C'est il va être beaucoup utilisé cette expression acte full, ça va être repris après tous les côtés. Et alors
on rappelle hein, que dans Fast and Furious en plus de Ludacris comme chanteur, bah il y a Tyrese.
Oui.
Qui est aussi,
oui,
un second rôle.
Exact,
hein, et ouais, qui chante aussi. Ouais, il chante.
C'est franchement marketingement parlant.
Ouais.
Pour la série Fast and Furious, c'est très fort. C'est très fort.
Alors déjà, moi je sais pas de trouver des films, ouais, trouver des jeux de mots. Bah le premier Fast and Furious, ouais, il était ultime. Parce que avant, enfin maintenant, Fast and Furious, c'est un mix entre James Bond et Mission Impossible, ouais, c'est, ouais, débile. Les, ouais, mecs sont en voiture tout
les
le temps.
Ils sont mieux. Les paris derniers sont pas mal. Moi, je vais lâcher
avec
mon
The Rock et tout, ouais, ouais, avec Jason Statham. Ouais. En fait, ça devient un genre d'Expendables, ouais, avec
ça,
des voitures.
Exactement. Ça pourrait être une production Luc Besson.
Ouais, mais le premier, je me rappelle qu'en fait, il y avait pas trop de CGI. Il y avait pas d'image de synthèse.
C'est la cascade en fait.
C'était de la cascade avec les voitures, ouais, qui passent sous les camions, on voit du sol et qui passent d'un côté, enfin sous l'armoire.
Je me rappelle ça. Je me rappelle très bien.
Était folle cette scène.
Était folle.
Le mec, le conducteur du camion, regarde dans son rétro, il voit pas les voitures, mais les voitures en dessous.
T'étais accroché à ton siège.
Ah non, c'était ouf, ouais, c'était ouf, vrai, franchement.
Ouais.
Mais ouais, bah, Too Fast, Too Furious. Alors, les observateurs remarqueront que le deuxième épisode de Californie sur South Central, je l'ai appelé Too South, Too Central.
Oh, une référence?
J'annonce, le troisième s'appellera South Central avec un 3 à la place du E.
Que, ouais, tout le monde pourra voir.
C'est l'école de la titraille. C'est l'école de la titraille. Fast and Furious. Hein,
c'est dans les détails. C'est dans les détails qu'on.
Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Une inspiration pour des générations.
Pour revenir, ça sent le son de commande. Quoi. Tu vois là, c'est il est obligé de glisser Too Fast, Too Furious dans le morceau. Bon, c'est pas
dans la première phase.
Oui, donc c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais encore une fois, c'est d'un point de vue business qui est fort, c'est que le label DTP, cet album là, donc cette bande originale, va sortir
en vinyle.
Ouais. Va sortir parce que c'est des labels promo qu'on me donnait à l'époque. Et ouais, ils vont le signer sur DTP, c'est-à-dire qu'ils vont sortir ça, ce qui est d'une grosse licence, hein. Et sur son label, donc ça veut dire qu'ils vont, c'est eux qui encaissent sur la BO. Ce qui est franchement, d'un point de vue business, c'est très fort.
Bah
très,
maintenant
très fort.
Qu'on sait que Fast and Furious, c'est une franchise de chacal qui est, ouais, là depuis maintenant 20 ans.
Ouais, bah ouais.
Effectivement,
ouais,
c'était un bon,
ouais,
move.
Ouais, franchement.
À l'époque, ils ont dû se dire, bon,
donne-leur,
on s'en fout, ça ira nulle part.
Qui jouent leur musique, là.
Voilà, on s'en tape. Très mauvaise idée, ouais, d'accord.
Et donc, alors, carton du film. Mais il est l'heure de retourner en studio et de préparer le quatrième album. Et le quatrième album en 2003, qui s'appelle Chicken and Beer, il va sortir avec ce titre. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Hell yeah, hey DJ, bring that.
just like that.
Hell yeah, hey DJ, bring that back.
How you ain't gon' fuck? Bitch, I'm me. I'm the goddamn reason you in VIP. CEO,
you VIP. Alors, ça doit être un gage avec Thierry.
Ouais,
alors, on place chacun de ses VIP dans notre chanson. Ça te sortit 15 mois la même année.
Alors, cet album, hein, je précise que la pochette est du meilleur goût, puisque c'est donc Ludacris qui tient une cuisse, une jambe de femme, avec au premier plan incrusté du poulet frit, des bières, et lui, il tient du sel.
Ah, il est en raccord avec le titre. Hein.
Ouais, chicken and beer. Mais c'est marrant parce que, alors, évidemment, le When I Move, You Move, bon, connu, tu vois.
Ouais. Production Kanye West, hein, stand-up. À noter, ah ouais, parce qu'on reconnaît pas, c'est pas trop le style Kanye West. Mais,
c'est vrai qu'il était plus, pas comme d'hab, pas comme le Kanye de l'époque.
Alors c'est, le Kanye est débuté, hein, c'était pas encore MC, rien du tout, il était juste compositeur. Et je pense qu'il a dû faire un son.
Sud.
Pour,
on lui a dit,
pour,
fait voilà, du Sud.
Voilà, exactement.
Il a fait du Sud. Mmh. Et alors, du coup, cet album, qu'est-ce qu'il fait?
Et ben, cet album, il va faire premier au Billboard, ça va être la première fois qu'il va faire premier au Billboard.
C'est bien.
Et il va vendre 2 millions. Alors, on peut dire que c'est une baisse, c'est moins bien. Mais on rappelle encore une fois qu'au début des 2000, des années 2000, de 2000 à 2005,
ah oui,
c'est la crise.
Napster.
C'est la crise du disque, c'est les bootlegs. Je veux dire, tu te balades dans les rues, on t'ouvre les couvertures. T'as tous les albums que tu veux qui sont pas encore sortis, tu vois. Et donc 2 millions,
c'est Internet, quoi.
Ouais, 2 millions, ça peut correspondre. Il est surtout, on pourrait dire qu'il est encore sur la même longueur d'onde, sur la même.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et ce qui est pas mal, hein, en plus tu peux additionner 1 million worldwide, ce qui est pas mal. Mais t'as un chiffre sympa. Mais il est surtout connu à l'époque parce qu'il va, ça va être un des premiers à être en beef, mais cette fois-ci pas avec un rappeur. Lui, il va rentrer en beef avec un présentateur télé qui s'appelle Bill O'Reilly. Bill O'Reilly de la fameuse chaîne
Fox.
Alors Fox News, si bon, je pense que tout le monde connaît Fox News, c'est parce qu'on entend pas mal parler la façon dont il parle de la France. Je sais pas si t'avais vu la trebelle à l'époque, la carte du ghetto.
Les no-go zones.
Ouais, les no-go zones.
Bah, la façon dont ils parlent du monde en général, hein, c'est spécial.
Fox News, le monde, déjà, c'est spécial. Fox News, le monde, c'est un truc vaste autour de, tu sais, du centre des États-Unis.
Mais qu'à chaque fois que t'as une carte de l'Europe, ils te mettent Prague au niveau d'Orléans, tout va bien, enfin.
Et,
c'est pas comme si c'était des journalistes, donc c'est pas grave, mais bon.
Et donc, Bill O'Reilly, à cette époque-là, qui réunit des dizaines de millions de personnes, comme une grande messe à 19h le soir, il va déblitérer, il va sur Ludacris en disant que c'est une honte pour la musique et surtout, il va parler
d'un... Pourquoi Ludacris alors qu'au même moment...
Ah, parce que Ludacris venait de signer un gros deal avec Pepsi. Un deal énorme qui a fait beaucoup parler, en dizaines de millions de dollars. Et Bill O'Reilly va demander de boycotter Pepsi. Alors tu imagines, carrément, il va dire aux gens, eh ben écoutez, si c'est comme ça, on boycotte Pepsi, on ne boit plus de Pepsi. Et ce qui est drôle, tu vois, parce que tu te dis, bon, tu sais, c'est une façon de toucher au porte-monnaie en disant, bah, je pars en campagne, parce que je pense que c'était certainement le premier artiste hip-hop à signer chez Pepsi ou à vérifier. Hein. À l'époque, ils signaient beaucoup de stars pop, et Britney Spears, allez, ben, tout ça, c'était Michael.
Ouais, c'est pas.
Mais Ludacris, il avait vraiment fait un gros chiffre. Il avait vraiment signé. Et Bill O'Reilly est parti en campagne contre ça. Alors, moi, je me rappelle l'émission de télé, hein, où ils ont fait un débat. Hein, Ludacris est venu, Fox News, ils ont débattu. C'est un débat qui ne servait strictement à rien. Chacun était campé sur ses positions. Et c'est là aussi qu'on va commencer à entendre quelque chose que je peux comprendre. C'est que Ludacris ne se prend jamais au sérieux.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Hein, c'est que, effectivement, soit t'es le mariole. En fait, c'est dur d'être mariole tout le temps. Ouais, en fait.
C'est super dur. Et certaines personnes vont commencer à dire, et de toute façon, on l'a entendu, il y a une redondance dans les morceaux, dans le flow, dans la façon d'aborder les textes. Et il y a quand même des gens qui vont commencer à dire, ouais, mais Ludacris, c'est un peu toujours facile.
C'est un peu un guignol.
Voilà, exactement.
Alors qu'on reprochait jamais à Mobb Deep de toujours avoir les sourcils foncés et d'ailleurs, faire des musiques tristes.
C'est même le contraire. S'il faisait autre chose, alors taper dessus direct.
D'ailleurs, ouais. Comme quoi. Ouais. Ok, donc bah, c'est bien aussi qu'on se rende compte de ça, parce qu'à un moment donné, moi j'étais là, je fais, ouais, ok, il est marrant votre pote là, mais. Relou quoi. Enfin... Ouais.
Et donc pour revenir, Pepsi va rompre le contrat avec Ludacris.
Ah, donc ça a marché.
Oui, ça a marché.
Oh,
et oui, Pepsi va rompre son contrat avec Ludacris. Et Ludacris, quelques années plus tard, il va faire un procès à Pepsi.
Bah,
et là, il va gagner deux fois plus que s'il avait été sous contrat. Donc, bon, c'est aussi intéressant parce qu'on est dans les années 2000, 2003. Et
2003, c'est après 2001. Donc voilà, il y a eu un changement de paradigme. Hein. Ouais. Donc octobre 2003.
Voilà, exactement. Alors cet album, on a dit, il a vendu 2 millions aux US et 1 million worldwide. Donc c'est encore une belle réussite.
Comme il n'y a pas Columbia dans l'équation, du coup personne n'est droppé.
Et tu remarqueras que d'ailleurs, d'un point de vue business, Def Jam est ils sont souvent très 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 solidaires de leur artiste. C'est-à-dire ouais. que tu peux avoir des coups, il a grave les gens. C'est ils sont, tu vois que c'est vraiment un label qui est fait pour le pour ce style de musique, pour le hip-hop. Ça n'a pas été, c'est Russell ouais. Simon, c'est un mec.
C'est un label qui fait voilà. que du hip-hop.
Voilà.
Contrairement à Columbia,
qui fait tout, quoi.
Qui fait Michael Bolton et.
Voilà. Ouais. T'es juste, tu sais, ton nom avec souligné en bleu parce que bleu c'est hip-hop. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est ça, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est assez à noter. Donc là, c'est l'heure de faire le cinquième album. Alors, là on voit le problème. Même moi qui suis fan de Ludacris, c'est quand même toujours la même chose.
Mais il y a que des gimmicks là.
Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que. C'est, et alors c'est là même lui, ça va retomber dans ses oreilles, parce qu'à ce moment-là, il va commencer à vouloir changer de style. Il va vouloir commencer à être plus mature, à perdre ce qu'il fait Ludacris d'ailleurs, de toute façon. Et cet album va encore moins bien marcher. Il va faire 1.5.
Ouais, mais il est toujours premier au Billboard.
Il est toujours premier au Billboard, c'est ça.
On cet album-là, il s'appelle Red Light District.
Voilà. Alors, c'est l'album, certainement l'album, c'est certainement le moins bon album de toute sa carrière.
Ah ouais?
Ouais, ouais. C'est, en fait, cet album ne sert à rien. Vraiment.
Okay.
C'est, tu l'écoutes du début jusqu'à la fin, t'as l'impression d'avoir toujours, d'avoir entendu le quatrième, là, c'est le cinquième,
ouais,
tu vois.
Ouais.
C'est, mais bon, certainement, il faut sortir un album, on va le faire.
Pourtant, ils ont pris relativement leur temps, parce que celui-là, ouais. il sort quoi, en décembre 2004, ouais, ouais. alors que le précédent, c'était en octobre 2003.
Ouais, mais c'est pas.
Donc, il y a un an quand
ouais,
même.
Un an, mais.
Bah, c'est pas rien, un an aussi.
Mais quand tu mets une tournée, tu sais, aux États-Unis,
ah oui,
quand
tout,
tu
ouais,
sais, lui, les films aussi, tu sais, il tourne ouais. ses films. Et d'ailleurs, il note, on peut noter qu'il aura un second rôle dans le film, un film que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, Hustle and Flow.
Hustle and Flow, mais incroyable voilà. ce film avec ouais. Terrence Howard.
Et c'est très très bon film, si vous l'avez pas vu, je le recommande.
Il est là-dedans. Ah, mais oui, c'est le MC d'en face.
Ah oui. Eh oui,
ah oui, ouais. Hustle and Flow, hein, donc qui raconte l'histoire d'un Mac, mais ouais. d'un Mac minable ouais. de Memphis ou je sais pas où ils sont.
C'est plus
non pas Memphis,
c'est plus ça.
Et qui décide de se mettre au rap.
Ouais, mais c'est top, hein. Il est top ce film.
Et le film est incroyable ouais, et ouais, c'est ouais. Terrence Howard qu'on ouais. voit maintenant dans Empire, mais qui connaît rien au rap, genre ouais. le mec il a une éducation classique.
Ouais, c'est fort.
Et c'est Three Six Mafia qui a écrit ouais. tous ses textes ouais. et le premier le morceau titre It's Hard Out There for a Pimp, le mec est capable de la rapper avec un flow et un t'as un accent traînant du sud, enfin, ouais. moi, le film, il est incroyable.
Alors,
franchement,
grave,
je le trouve, mais
grave.
Mortel. Vraiment
et
mortel.
C'est un film qui a coûté 3 millions de dollars seulement. Le budget est ridicule. Ouais. Et qui va rapporter 30 millions, qui va rapporter 10 fois plus. Donc, on est toujours dans une logique de succès, même
coup,
au cinéma, quoi.
Dans ce film-là, Ludacris a un rôle de fils de pute. On le dit, puisque du coup, le héros
oui,
lui ramène
ouais,
sa
ouais,
démo,
ouais,
machin,
ouais,
et le mec
ouais.
dit, ouais, t'inquiète, je vais te faire percer.
Ouais.
Et l'autre, il attend
ouais.
désespérément de ce hook-up-là, parce qu'il veut vraiment s'en sortir et arrêter les histoires, ouais. les combines dans la street, et il se rend compte que l'autre s'est foutu de sa gueule, ouais. il s'en bat les couilles.
Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que, en plus d'être, ça qui est fort, c'est que, en plus d'être un bon MC, d'être un artiste
ouais,
accompli,
bon acteur,
c'est un bon acteur aussi.
Ouais.
Je veux dire, regarde, la preuve, c'est qu'on oublierait que c'était un MC, tu vois. Comme ça se passe bien, que ça marche bien, bah écoute, y a toujours le crew dans les parages.
Enfin, ça marche bien, mais du coup,
ça marche moins bien, mais encore une fois.
Mais ça marche toujours.
Mais ça marche bien.
Ok.
C'est, tu vois. Et puis.
Donc, c'est le deuxième album.
Deuxième album de DTP, voilà.
Ok. Georgia. Oh, un sample
Georgia.
Discret.
Georgia.
Georgia. Oh la saloperie.
Georgia. We on the grind. Georgia.
Absolument aucun respect pour qui que ce soit dans ce morceau.
Et d'ailleurs, ce qui est marrant avec ce cheat, c'est que ils ont demandé l'autorisation à Ray Charles d'utiliser et Ray Charles a refusé.
Ah bah devine.
Mais c'est vrai, c'est véridique. Donc ils ont dû prendre la doublure de Ray Charles.
C'est Jamie Foxx
qui chante, tu vois.
Ah parce que Jamie ouais. Foxx avait fait Ray à ce moment-là.
Voilà.
Ouais.
Et donc c'est drôle, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas pu utiliser.
Bah franchement, vu comment ils ont respecté le matériel, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait là.
Là encore, c'est marrant parce que ça représente bien une époque. C'est l'époque où en fait le sample pitché a été surexploité.
Bonjour,
et donc ils essaient de trouver autre chose. Donc c'est les époques expérimentales.
Ah non mais là c'est dégueulasse. Tu peux me le remettre le début là. Tu sais, ça part bien, tu fais.
Georgia.
Ah, bah, cool. C'est l'original, ça part bien, mais c'est pas pitché, tu vois.
Ah.
Georgia.
Et là, tu fais, mais pourquoi?
George.
Ah non, mais ça a dû ripper, mais bon. Non, ils vont laisser dérouler, George. Normal. Eh non. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Mais du coup, c'est cool parce que ça permet de capitaliser sur le fait que Jamie Foxx, il a peut-être été nominé aux Oscars, non, pour son... En fait, en gros, là-bas, dès que tu fais un film qui retrace la bio de quelqu'un, t'as un Oscar.
Je crois qu'il a gagné, je me rappelle plus. On va vérifier, je crois qu'il a gagné.
C'est pas impossible. Bah, ouais. En tout cas, ouais, donc ça, c'est l'album de Disturbing the Peace.
Disturbing the Peace qui va en faire disque d'or, tu vois. Gold, 500 000. Ça, c'est un titre qui a beaucoup tourné aux États-Unis. Georgia. Bon, déjà, c'est pour la nouvelle génération. Comme tu dis, c'est vrai qu'on autant écouter l'original, tu vois. Mais quand t'as 10 ans, 12 ans, t'as peut-être pas envie d'écouter
Ray Charles.
Donc, t'écoutes ça, ça tourne bien, ça représente ça représente l'État, Georgie, tu vois. Et d'ailleurs, il va inviter un autre groupe. Field Mob, un groupe de Lascar de Géorgie.
Field Mob. Ouais.
Et qui, eux, vont aussi signer sur le label de Disturbing the Peace. Et là, on va faire un petit point label. Un petit point.
C'est important.
Alors, Disturbing the Peace, comme je vous explique au début, c'est une réussite. C'est une vraie réussite dans le sens où. En tant que business.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au-delà donc, des artistes qui composent ce crew, c'est-à-dire Shauna,
Film Mob, du coup.
Film Mob, bien sûr. Ils vont aussi signer, il a le nez, tu vois, ils vont aussi signer un rappeur qui s'appelle, que tu apprécies particulièrement.
Ah, lui?
Shingy.
Ah merde.
Shingy, tu vois. Et c'est une bonne, Shingy qui sort de nulle part, tu vois. Et c'est une bonne piège parce que Shingy, il va sortir un morceau qui s'appelle Writer. Mm-hmm. Alors, on va pas le jouer parce que bon.
On l'a pas?
Non.
Ah, c'est dommage.
Ouais. Et ça va faire un carton, mais carton monumental. Shingy, le premier album, va vendre quasiment 3 millions, t'imagines?
Ouais, alors,
c'est une bonne pioche, tu vois. Au-delà de ça, ils vont sortir aussi, ils vont signer un chanteur local qui va se faire un petit nom, Bobby Valentino. Bobby Valentino, bah, tu sais, boum, allez, encore carton.
Bobby Valentino, millions. C'est quoi, Slowdown?
Slowdown!
Carton aussi, tu vois. Et donc tout ça, et même les rappeurs de chez eux qui font des albums, genre, par exemple le Shauna, c'est des albums qui coûtent quasiment rien, tu vois. Ils vont vendre 200 000, 300 000.
Donc c'est des ventes solides pour des artistes qui ont zéro expo, qui sortent de nulle part.
Et puis aussi des bons directeurs artistiques, des bons A&R qui piochent des beaux artistes qui sont pas signés, quoi.
Bah, Chingy, je me rappelle que le mec, il avait un flow, enfin, c'est du rap, c'est...
Encore une fois, c'est la période où t'as les Chingy, les...
J-Flex, non, pas J-Flex, le truc là, J-Quan.
Ouais, exactement, exactement.
Pour moi, c'était la même chose.
C'est tous les rappeurs en bandana,
c'est petit Renoir, bandana, nappe couchée, qui t'explique qu'il se prépare pour aller en reçoit, tu vois.
C'est exactement ça.
Ouais, ça pendant un album.
C'est la photocopie en fait, la photocopie et ça marchait, hein.
Mais c'est du soul ou d'acris en fait, finalement.
C'est du soul ou d'acris. Bon, Shingy, c'est un peu, tu sais, c'est le rap sudiste, tu sais, feignant. Tu vois, un peu plus,
le drawl. Voilà. Voilà.
Bon, gros carton, 3 millions,
c'est pas mal. C'est mieux que Ludacris.
Et donc Ludacris, il est quand même temps de retourner en studio. Et on est déjà sur le 6e album.
Alors attends, parce que là on a fait quand même un saut quantique là. Donc on était en 2004 sur Red Light District.
Exactement. Et là en 2006, il retourne en studio. Enfin, en 2006. Il va certainement rentrer en début de 2006 avec le 6e album, ce qui est fou. C'est le 6e album, tu dis quand même, balèze. Et avec un album qui va s'appeler
Release Therapy.
Release Therapy. Et là, c'est changement de stratégie. Ludacris, je pense que lui aussi s'est rendu compte qu'il tournait un peu en rond. Il doit être quelque part là, c'est celui-ci, là. Voilà. Tac. Et parce qu'il va se couper les cheveux.
Oh putain,
nouvelle coupe de veuche.
Il se fait un contour, mon frère. Po. Celui-là, il est visible depuis la lune. Ah non, mais attention, c'est. Il est incroyable, son contour.
Ah ouais, je pense
le contour de chanteur de R&B, là, tu sais, avec des angles droits dans les cheveux et tout. Ouais. Incroyable. Mais en fait. Et il l'a aussi dans Fast and Furious.
Dans les derniers, oui.
Ah bah je pense, oui, d'accord. Mmh. Ah, il faut presser. En plus, tu vois, c'est une boîte, elle demande à être cassée parce qu'il faut.
Tu te rappelles pas de cette période
quoi, ces boîtes
les boîtes-là, les boîtes arrondies sur les côtés.
Ouais, donc c'est les boîtes de CD avec les coins un peu arrondis et du coup, il faut presser.
Ouais.
Putain. Ok.
Et donc avec ce titre. Shake your money maker like somebody about to pay ya. I see you on my radar, don't you act like you were afraid of. You know I got it, if you wanna come get it. Stand next to this money like, hey, hey, hey. Shake your money maker like somebody about to pay ya. Don't worry about the meters, keep your nose up in the air. You know I got it, if you wanna come get it.
Moi je dis rien, je dis plus rien.
Alors c'est une production Neptune, ça, si vous l'avez pas reconnu.
Ouais, en fait, ça s'entend pas, c'est du Neptune, c'est pas compliqué. Hein.
Et alors c'est un album, contrairement au single Money Money, c'est le seul. Alors c'est un single qui n'a rien à voir avec le reste de l'album. L'album il est dark, c'est Ludacris qui est d'ailleurs même la position, t'as vu, position réflexion.
Il réfléchit, ouais. À l'arrière il hurle dans une cellule. Tu sais, pas capitonné, ouais, rien, ouais. Une cellule plus c'est, de prison.
Voilà, je pense que. On lui a dit, écoute, Luda, il faut que tu changes un peu, essaie de faire un album un peu plus.
Mais les contours laser, là, c'est impressionnant.
C'est l'album de la maturité, tu sais, on dirait aujourd'hui. Et alors.
Attends, je regarde vite fait en featuring, il y a qui? Bah, il y a son crew. Ah, il y a du Young Jeezy, du Pharrell, Beanie Siegel. Oh, il y avait Pimsy quand même, hein, de UGK, Rest in Peace. Si Murder, le frère de Master P, qui est aussi en tôle parce que bah, lui.
Ah, lui, il a pris ses perpètes, non, je crois.
Bah ouais, il s'appelle Si Murder et du coup, il a vraiment murderé quelqu'un. Donc,
quand le marketing va trop loin.
Ah ouais, bah là aussi, ouais. Devant témoin en plus, hein, c'était un peu idiot, donc il a pris perpète. Il y avait qui d'autre? Mary J. Blige. Ah d'accord, et R. Kelly, toujours dans les bons coups, celui-là, t'inquiète. Toi-même, tu
aussi
sais.
Aussi, il a pris perpète.
Putain. Ouais, non, mais c'est un album, enfin.
Après, le.
Même au niveau du feeling, tu vois, on dirait justement du Common.
Ouais,
tu vois,
bah, franchement, c'est, exactement, c'est plutôt. T'as raison, exactement, Chocolate.
Un peu Chocolate, ouais, ouais. Tu vois, genre, Scred, ouais. Ton sur ton, ouais. Machin et tout. Pas trop clinquant, tu vois.
Ouais,
ça change la cuisse,
ouais,
la cuisse, ouais. De poulet, là. ou le chien avec le grill. Ok, et donc ça vend pas du coup.
Bah, ça vend, ça fait 1.3, ça, 1 300 000.
Bah, du coup, non, il est encore en petite baisse.
Ouais, petite baisse, mais voilà, c'est subtil. Mais par contre, il fait encore numéro 1 Billboard. Donc, ce qui montre bien que les baisses ventes, mais lui en standing, il est toujours là.
Il est toujours là.
C'est-à-dire que, encore une fois, je sais pas si on se rend compte, c'est le 6e album, et là, il en enchaîne 3 de suite, numéro 1 du Billboard. Ce qui est, c'est comme si, tu vois,
en
France, on avait Booba qui sortait 3 albums qui étaient numéro 1, quoi.
C'est le cas. Sauf que nous, numéro 1, il suffit juste que tu vendes à ta grand-mère et t'es numéro 1.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment une vraie performance. Et aux États-Unis, le marché est différent.
Oui, c'est un marché qui est bien plus concurrentiel. Ouais. Donc là, ok, il est dark, il a fait une bonne réflexion sur lui-même.
Ou alors sa maison dit, c'est de lui dire, bon, écoute, Luda, il faut qu'on change un peu là, il faut qu'on change de stratégie. Puis peut-être que c'est aussi son âge, tout le fait, sur ses expériences de vie.
Mais alors, du coup, parce que donc là, on voit que sur son album, c'est majoritairement des feats de son équipe.
Ouais. Beaucoup de Def Jam, hein, Beanie Siegel.
Par contre, lui, dans cette période-là, il va feater à droite, à gauche, un peu partout.
Ah bah, on revient un peu à ce qu'on avait dit avec T.I. C'est l'émergence de ces rappeurs invités sur tous les albums de pop. Alors, on a Alicia Keys, R. Kelly, Ciara.
Fergie. Kelly Minogue.
Kelly Minogue.
Putain. Bah, l'album de Kelly Minogue, il était pas mal.
Ah, je m'en rappelle plus, tu vois.
Si, produit par le français, là. Un truc un peu électro.
Mais je m'en rappelle plus, tu vois. Je suis passé à côté. Tu vois, ouais.
Bah, putain. Mec,
je pense que j'ai bloqué sur Kelly Minogue, moi, tu vois.
Ah ouais?
Ah ouais, je te jure.
Non, elle était cotée à un moment donné. Elle sortait de nulle part. Alors je confonds avec Madonna peut-être.
Madonna elle était produite par ouais exactement.
Ouais, donc c'était Mirway. Non, mais Kylie Minogue aussi, elle a fait un truc un peu électro, hein. Elle a pris un virage.
Elle est toujours électro,
c'est
Kylie Minogue.
Madonna, je crois quasiment en même temps.
Tu vois, pour toute la musique un peu normale, on demande à Ghislain parce que c'est quand même son quand même son fond de commerce. Ghislain, tu devrais avoir un micro pour pouvoir intervenir dans cette émission. On fait Six and Daz and Gis, et comme ça je serais pas le dernier avant le end, enfin après le end, tu vois. Et du coup ça m'assurerait une carrière. Du coup là, on enchaîne. Donc là, il fit un peu partout.
Ouais, il fit un peu partout.
Tout
puis
ça nous ouvre les portes du septième album.
Enfin, c'est-à-dire que voilà, bon.
Alors attention, parce que là, le mec, on sent qu'il a pris un virage dark. Le septième album s'appelle Theater of the Mind.
Exactement. Alors ça aussi c'est bien représentatif du son de l'époque.
Ouais, c'est produit par Dark Child.
Ouais.
Dark Child, qui est notamment, alors c'est Rodney Jerkins qui est finalement un mec de l'ombre que personne, enfin tout le monde connaît sans le connaître.
Ouais,
c'est mais c'est notamment le mec qui a contribué au retour de Michael Jackson avec You Rock My World. Enfin, c'était en gros le producteur de son dernier.
Ouais. Puis aussi de Destiny Child, c'est lui qui a contribué beaucoup au lancement de Destiny Child, un petit groupe aussi.
Donc là, c'était un morceau avec Chris Brown, là aussi, lui toujours dans les bons coups. et du coup, et alors c'était intéressant parce que comme nous, on a tous les albums ici, donc là, sur la pochette de Theater of the Mind.
Le mec, il sort quand même son 7e album.
Donc il sort son 7e album. Normalement, tu fais bon, le mec est connu. Voilà. Hein. Mais sur le petit sticker promo qu'ils mettent sur les pochettes, ils disent le nouvel album de la superstar de Fast and Furious.
Non, c'est ça qui est dingue. C'est donc pour le grand public, ils considèrent que.
Maintenant, c'est un acteur.
Voilà, c'est ça.
C'est un acteur qui fait du rap.
Alors, remettons dans le contexte aussi. C'est-à-dire que Fast and Furious, qui est quand même une franchise qui cartonne, qui est certainement beaucoup plus vue que Ludacris en tant que rappeur, qui, tu vois, donc bon, ouais, pour peut-être toucher d'autres personnes. Bon, après, est-ce que c'est vendeur de dire, ouais, tu vas écouter le mec qui joue dans Fast and Furious? Je sais pas, tu vois. Mais eux ont jugé que c'était vendeur.
Ouais, Will Smith, c'est ouais. le mec de Bad Boys. Alors que Will Smith, quoi, Fresh Prince, ouais. il rappait avant d'être acteur.
Mais, c'est vrai, c'est vrai.
Mais du coup, il a atteint le Will Smith status, on peut dire.
Alors, ce qui est marrant avec cet album, donc, d'ailleurs, le titre, c'est Theater of the Mind. Alors, théâtre, c'est un faux ami, comme on dit, parce que théâtre, c'est pas théâtre.
Mais si, c'est théâtre de l'esprit.
Mais oui, mais c'est un théâtre aux États-Unis, c'est un cinéma.
Ah, le cinéma de l'esprit.
Et c'est la traduction est différente, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que, bon, alors, l'album est blindé de feat, hein. Là, tu fais la liste, ils y sont tous.
Alors, attends, je regarde, il y a qui? Alors, déjà, il y a Floyd Mayweather.
Ah, il a dû dire what's up, toi.
Ouais, ok, bon, t'es boxeur, mais c'est pas grave, ok. Donc, T.I., là, tu croises les effluves, c'est terminé. T-Pain, hein, c'est comme Tragédie chez nous, hein, c'est le seul mec qui porte bien son nom, hein, c'est une souffrance. The Game, ok. Rick Ross, oh bah, Ving Rhames. No, out of nowhere, des acteurs. Donc, Ving Rhames, hein, qui est connu pour être le sidekick de Tom Cruise dans Mission Impossible, hein, quand même. Chris Rock, ok, allons-y. Chris Brown, ils avaient tous les Chris. Jamie Foxx qui revient, ouais. Lil Wayne, Nas Jay-Z. Oh, putain, le dernier morceau, Do the Right Thing.
Exactement.
Avec Common et Spike Lee, mon gars.
Wake up.
Wake up. Wake up. Wake up. The window pane blazing like endo flame. It's time to wake up. Come to your senses, man. Snow is all around you, but you don't play in the winter game.
Ah, it's Wonder.
Surround you, but you ain't playing in the game. Load them up and fill them up to the top before you cock your name. Trying to get from the bottom to the top like the stock exchange. Shower, shit and shave and hit the corner for a block exchange. Je pense que
excellent,
un jour,
excellent,
hein,
excellent.
On parlera du mec qui fait cette prod, qui est Nine Fonder,
ouais,
qui est
bien sûr, complètement.
Mon producteur préféré ouais. ever, avant Dre, avant tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce mec-là que j'écoute. Ouais. Nine Fonder, qui était évidemment dans le groupe Little Brother. Ouais. Je ferai un Dazen 6 ouais. Little Brother, ouais. parce que c'est
ouais,
important.
Complètement.
Et ben, tu vois, voilà. Quand tu mets un mec qui fait des bonnes prods, il a beau prendre le style du Sud, parce que rappelons-le, avec la définition du Sud, Nine Fonder, il est du Sud aussi, parce qu'il est de Caroline du Nord, donc il est dans le Sud.
C'est vrai.
Et du coup, bah, t'as du sample, donc ça peut être putassier pompier, mais de qualité. Remets-moi le début.
Wake up.
Ah putain.
Wake up.
Et alors, si vous comptez en fait hein, le wake up, le truc du début qui rejoue, Nine Fonder le joue 9 fois. En général.
Alors, c'est vraiment, c'est peut-être mon album préféré.
Ah, il me réconcilie avec l'artiste. Ouais. Je suis content.
Et alors, sur cet album-là, c'est bon, c'est un concept, c'est comme un film cet album. Et lui, il va le dire que c'est pas des featuring, c'est des co-stars. C'est tous les et c'est vraiment c'est un album très intéressant parce que
c'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs,
c'est pour ça, voilà.
Ça y est, cinéma,
et chacun l'esprit. En fait ça va être construit comme un film et chacun va avoir sa place et tout. C'est vraiment si tu prends le temps d'écouter d'analyser, c'est un super album.
Donc ce morceau là qui ferme l'album et qu'on vient d'écouter là, donc ça, je rappelle, avec Common et Spike Lee en featuring, c'est quand même pas dégueulasse, hein.
Et okay, c'est un bon album qui sort de la crise classique qu'on connaît. Et ben, c'est le premier échec vraiment de
Ludacris. Putain, et voilà, les mecs respectent rien. Voilà. Eux, il leur faut des trucs de poulet frites, barbecue. Là. Ah, ils m'énervent, public de merde. D'accord, donc lui, il vend combien du coup?
Ah, il fait 700 000.
Ok.
Donc on est sous le million. Et aux États-Unis, quand t'es sous le million.
On commence à te montrer la sortie. Si t'es chez Columbia, d'un seul coup, tout le sol s'incline pour te pousser vers la sortie.
Chez Columbia, encore une fois, il n'y a plus personne qui répond. Là. T'appelles, oui, bon, ah non, c'est fermé.
Non, moi, c'est dommage parce que pour une fois, c'est un album avec un vrai concept.
Qui
le déroule en plus du début à la fin.
C'est là, tu vois, c'est là le stéréotype, les étiquettes qu'on colle. Lui, Ludacris, c'était pour faire de la fête, pour lever les bras. Et dès qu'il a commencé à faire quelque chose de sorte de ça.
Ça répond par exemple à la question, si on revient sur le rap français, qui dit, mais je comprends pas, un mec comme Booba avant, ouais, putain, il kickait, il envoyait, ouais, il y avait de la métaphore, il y avait de l'assonance dans tous les sens. Et là, maintenant, on dirait, il parle dans le micro, il s'en bat les couilles. Et le mec te répond, pourquoi je me ferais chier?
Ouais, bien sûr.
Puisque vous achetez cette merde.
Ouais, c'est toujours. Puis surtout qu'en plus, maintenant, tu sais, il y a les études de texte de Booba. Moi, enfin, pour avoir eu la chance de d'être en studio avec ces artistes-là, je me rappelle une fois, je dirais pas le nom, d'un MC qui m'a dit, tu sais, moi, quand j'écris mes textes, franchement, je les écris à l'arrache, je suis à moitié défoncé. Et il voit des analyses de textes, tu sais, des gens.
Vas-y, c'était qui?
Tu vois? Je vois, je dirais pas c'est qui. Mais il m'a dit ça, c'est drôle parce qu'il est allé sur Internet, sur un forum qui...
Ah ouais, les mecs, ils...
Et tu sais, les mecs, analyse de texte, tu sais, oh là, quand il a fait cette punchline, il devait penser, machin. Et en fait, tu vois vraiment que le niveau branlette de certains, quoi. Tu sais? Et lui, il me disait vraiment, mais j'étais défoncé, j'ai écrit ça, je sais même plus, tu sais. Et quand tu dis, et Booba fait partie de cette école.
Bah, bien sûr. Bien
c'est genre les études de texte de Booba, alors que franchement, quand tu vois comment
les
il enregistre.
Quarts, il a arraché.
Pff, il a arraché, tu vois. Ça me rappelle à l'école quand on faisait les fleurs du mal de Baudelaire. Mais le mec, parce que lui aussi, Baudelaire était complètement high, tu vois, il était complètement défoncé. Et là, on cherche des trucs, des analyses de texte. Et donc, bref.
Point première règle.
Et donc, à côté de ça, bah, lui, il continue ses petits films. Je crois qu'il en est au numéro 8, je sais plus trop, là, j'ai plus suivi Fast and Furious.
On est en quelle année, là,
On est en
2008. Et en janvier 2010, attention.
Et en janvier 2010, là, il va faire un comeback.
Fulgurant.
Fulgurant. Succès de naze. Hip-hop show.
Aïe, 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 aïe.
When I was 13, I had my first love. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. On rigole, c'est que là j'étais obligé de le mettre celui-ci parce que c'est drôle. Le mec il s'est fait chier cet album.
Ouais, non, un album avec Nine Fonder et tout le bordel, résultat des voilà, courses.
Justin Bieber. Alors là c'est le phénomène Justin Bieber. Alors je vais vous dire le chiffre, c'est 12 fois Platinum.
Donc 12 millions.
12 millions. Je veux dire, bon, à partir de là, tu peux même plus le critiquer. Tu as presque envie de lui dire, bon, bien joué quoi. Tu
vois.
Et donc il se place là-dessus, il se place sur ce petit titre qui fait que bah, il va rester quand même, il va rester populaire auprès du grand public. Et il va essayer de capitaliser là-dessus en partant en studio, en revenant en studio et en enregistrant le 8e album, Battle of the Sex.
Gislain est mort de rire.
Alors, ce titre là, How Low.
How Low, là, il parle de ses chiffres de vente.
Excellent. C'est très bon, tu vois.
Attends. Il y avait un morceau de Ludacris qui était mortel. Fuck Me ou je sais pas quoi, là.
Je sais plus.
Non
c'est plutôt... c'est peut-être, oui.
Parce que je pensais qu'on en parlerait, mais je le vois pas, là, dans les titres. Bon,
Il faut le ressortir. Hein. C'est qu'on, j'ai dû passer...
Non, mais ça se trouve, on l'a même pas encore... un morceau bien, là. Peut-être que c'est pas Fuck Me, que ça s'appelle. Bah, bref, alors là donc,
c'était
on
pas
est sur...
Howlow, déjà.
Ouais, c'est pas Howlow, ouais. Franchement... Et,
alors, tu sais que ce morceau, ça a été un carton.
En club, évidemment.
Bien sûr.
Ouais,
voilà. Mais bon, c'était un morceau. Ça a été le number one banger club de la sortie. Alors, Battle of the Sexes, donc Bataille du Sexe, c'est un album qu'il devait faire avec une des artistes de DTP, Shauna.
Qu'on a là.
Voilà, exactement. Et il devait faire cet album ensemble. Ouais. C'est encore un concept, femme, garçon, puis pareil, il parlait de choses.
Femme, qui s'assume, hein, je pense.
Ouais, oui. Mm-hmm. Mais malheureusement, la petite Shauna, elle va quitter DTP juste avant la sortie.
Ah, mais donc, elle l'a fait quand même.
Ouais.
Mais quoi,
non, en fait, il va garder le titre. Et il va inviter d'autres artistes pour la remplacer.
Ah d'accord. Okay.
Mais c'est pour ça qu'en fait Battle of the Sex, parce que moi je me suis posé la question, pourquoi Battle of the Sex, tu vois. Et bien ils ont dû, la machine était lancée, je pense, tu vois. La machine était lancée, le single cartonné. Donc bon bah écoutez, ils se sont dit
mais pourquoi elle s'est barrée, elle?
Bah je pense que on sait jamais, hein, tu vois. Mais le premier album a fait 200 000. Je pense qu'elle devait, le deuxième est sorti, bon, ça a dû vendre 70 000, 80 000, je l'ai même pas, cet album, tu vois. Et après, elle a eu un appel de Colombia.
Non, c'est vrai?
Non, je sais pas du tout. Non, mais bon, elle fait du Tipeee. Donc, je sais pas pourquoi, certainement une question de business. Et surtout le retour d'un Luda festif. Tu vois, il s'est dit, bon,
là, tu peux remettre le morceau, quoi.
Ah,
là, c'est très festif.
Faut voir là, c'est un morceau, c'est la barre du twerk, tu vois, c'est le morceau qui fait. Tiens.
Ah là, c'est festif, hein.
Vous voyez le petit twerk qui me fait naze devant moi.
Oh là, c'est. Je savais même pas que je pouvais aller aussi bas. Ah putain, ouais, juste là, shoot-moi cette chiasse. Donc ça, ouais, donc tu dis ça avant. Ça va.
Bah ça rentre 700 000, 700 000.
Ça fait 700 000, ouais. C'est comme l'autre, hein. Donc comme quoi,
mais,
ça rien de se casser le cul.
Encore une fois, premier au Billboard. C'est-à-dire que c'est ce qui est quand même une perf, tu vois. C'est 8e album, premier au Billboard. C'est vraiment une belle perf. Et il a certainement dû faire cet album, encore une fois, c'est un album concept. Mais l'album d'avant, qui était plus conscient, plus travaillé, plus réfléchi, a floppé 700 000. Donc il est revenu, comment on fait une tentative, et après tu reviens à tes basiques, quoi. Alors, c'est un album, comme tu dis, c'est un album Kleenex, quoi. C'est un album, tu l'écoutes 2-3 fois, tu bouges tes fesses.
Puis après, tu l'oublies.
Et après, tu l'oublies complètement.
Ah non, c'était Splash Waterfalls, le morceau qui était dans le truc avec la cuisse de poulet, là.
D'accord, ok.
Tu te rappelles de Splash Waterfalls ou pas?
Là, comme ça, le nom, certainement, mais...
Ok, je suis obligé de le mettre, hein. Je le mets carrément dans le micro, Ghislain. Ghislain, il me regarde avec des yeux, genre, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Non, c'est moi qui le mets, regarde. T'es prêt? Attention.
Ça va être dégueulasse.
Non, ça va sortir bien.
Ah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, gros single. Très gros single.
Voilà, on n'en a pas parlé de celui-là, alors que pour moi, c'est peut-être le deuxième morceau après Ariel Coppel. Et ça m'est revenu là, comme un flash. Tu vois, je pensais que c'était plus loin dans sa carrière, mais en fait, pas du tout. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de l'écouter après 2000.
À écouter en meilleure qualité.
Oui, bien sûr. Bah, franchement, après ton freestyle soufflé depuis une fenêtre de voiture.
C'est pour ça, c'est le concept. Moi, je le souffle. Il faut du souffle.
donc là, on en est où, du coup? Alors, ouais, qu'est-ce qu'il fait après? Donc, alors, déjà, on note que le mec, juste avant, il fait un feat avec Justin Bieber, 12 millions. Il se dit, wouh, c'est le moment de surfer sur la vague. Ouais, 700 000. Ok. Ouais.
Dur. Ouais. C'est franchement, tu te dis.
Ah, bah là, il s'est pris un petit four, ouais.
Et là, ça va être une période. On va rentrer dans la période où Ludacris, il va un peu. J'espère qu'il a fait des économies parce que ça va être un peu difficile pour lui. Il va faire.
Traverser du désert.
Ouais. Ah, désert.
Désert, tout est relatif, ouais. Tu vois. Parce que dans le même temps, il est en salle de ciné, donc. Voilà. Ok.
Et donc, en 2012, il va essayer de sortir 3 singles.
Ouais.
Trois flops qui vont pas marcher. Et le 9e album, il est même quasiment mis dans le tiroir. C'est-à-dire que DFJ ne va pas sortir cet album-là. Ils vont décider. Là, tu te dis, bon, c'est vexant.
Ouais, un petit peu quand même.
Tu vois, c'est vexant. Et de ce côté-là, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va continuer à faire des feats à droite, à gauche. Ah oui, donc il y a le Fast and Furious 6, le 6, tu vois, qui sort en 2013. En 2014, il sort un single flop. Et là, tu te sens que c'est un truc travaillé par le marketing du label.
Ah ouais, je me rappelle.
Party Girls, qui reprend le Aqua
Barbie Girl.
Tu vois, c'était une catastrophe. Là, vraiment, c'était le fond.
Attends, quel artiste on avait vu qui avait fait un... Avec Noma Way.
Ah bah Thierry.
C'était Thierry, ok.
Thierry. Avec Rihanna.
Donc les mecs se disent, on va reprendre un morceau d'Eurodance.
Ouais, c'est vrai que c'est ça.
Ouais. Et les deux d'Atlanta, hein. Donc il y a quand même un pattern, hein, qui se...
Attends, mais ça tombe, on est là, on dit, ouais, les gangsters, les machins, ils écoutent de la soul. Mais ça tombe, les mecs.
Ouais, chez eux. Ils se butent à Barbie Girl, bien sûr.
Eh oui, bah, tu vois.
Donc ça, c'était en 2014. Alors,
ça flop. Mais il va quand même réussir à sortir ce nouvel album, cette fois-ci en mars 2015, donc c'est vrai, les années passent, là il est vraiment, je pense, dans le cinoche. Il va sortir son neuvième album, qui s'appelle Luda Verso. To love and then lost, then never to loved at all. If that was true, I wouldn't be drinking this alcohol. Every relationship failed, don't take a toll. Comme dirait, c'est correct.
Bah attends, oui, c'est un son propre et tout. En plus, Miguel en fuite.
Non, c'est un son propre.
Ah, le son est propre. Vrai.
Et alors, c'est là où on arrive.
C'est un accident industriel.
Là, il va faire 100 000. À 100 000, là, je veux dire, quand tu passes de 3 millions, 2 millions, 4 millions, même, je crois, sur le deuxième, à 100 000, là, c'est dur.
Ça veut dire, chacal, arrête maintenant.
Ouais. Et alors, aussi, c'est vrai qu'on rentre dans une nouvelle période où le chiffre de vente physique ne correspond plus à grand-chose.
Oui.
Puisque c'est surtout le streaming. On parle streaming. Et il va faire... C'est marrant, parce que maintenant, les chiffres de stream, ça me fait toujours rire, moi. Quand tu sais les bots.
Ouais.
Quand tu sais les bots qu'il y a, qui te font des autos.
Des écoutes, ouais.
Et il va faire 8 millions de streams. Et 8 millions de streams, ça c'est intéressant. C'est 50, on considère 8 millions de streams, ça fait 50 000 ventes. Donc le ratio, je sais pas si les auditeurs le savent ou pas, dans le business de la musique, on considère que 150 streams correspondent à une vente d'album.
Mais un stream, il est compté quand le mec a écouté la musique de A à Z ou... Mais
non, t'écoutes juste 10 secondes un titre. Bah, quand tu t'achètes un CD, quoi. Mais si t'écoutes un titre, tu vois, du CD, tu l'as acheté le CD.
Donc si on écoute 150 chansons, on part du principe que t'as acheté le CD.
En utilisateur unique, hein, ouais.
C'est dur quand même. C'est vachement dur.
Ouais, mais le streaming est accessible de malade.
Ça veut dire, pour que on considère que t'aies acheté l'album, un album de 10 titres, il faut que tu l'écoutes 15 fois.
Non.
Bah si. Pour que tu totalises 150 streams sur ton album.
Ouais. 150 différentes, c'est facile avec tous les trucs. Des fois, tu t'appuies juste.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des bâtards parce que.
C'est comme si quand t'allais à la Fnac à l'époque, t'écoutais le CD, on comptait que t'avais acheté le CD. Tu vois?
Bah non, justement, parce que là, il faut l'écouter 150 fois le morceau.
Oui, voilà.
Tu vois, c'est un peu abusé. Oui. Enfin, moi, je me rappelle que des CD de titres que j'achetais, je les ai jamais écoutés 150 fois, pourtant j'ai acheté le CD.
Oui. Mais on parle en utilisateur unique, c'est-à-dire 150 personnes différentes, hein. Ce qui est dans le streaming est que dalle. 150 personnes, c'est rien du tout.
Ouais.
Je veux dire, t'as à peine le temps d'avoir posté ton titre, t'as déjà des centaines de milliers de...
Ouais, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu, enfin, de toute façon.
Ah, bah, tu vois, c'est marrant, parce que moi, je pensais que 150, c'était beaucoup pour une vente.
Ah ouais?
Parce que 150,
enfin, avec c'était l'iPhone. Peu, du coup, pour toi.
Ouais, moi, je
en fait, encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'on compte le titre joué intégralement, ou est-ce qu'on compte le titre lancé comme une vidéo YouTube, les 10 premières secondes?
Non, c'est juste que, voilà, dès que t'as touché l'album.
Ouais, d'accord.
C'est pour ça que aujourd'hui, on voit tous les rappeurs français qui sont dans les 10 premiers des ventes. Il y a 7 rappeurs français, par exemple, en France. Ce qui ne s'est jamais vu quand c'était du physique, tu vois.
Donc là, toi, t'es en train de dire attention. J'ai l'impression qu'il y a une zoulouterie. Attention, là, c'est le six.
C'est quand même connu. C'est quand même connu que
il y a des achats de stream.
Il y a des achats de stream en Asie.
Ils sont même
en
train de se clasher, les mecs. Ouais. Oui, il y a des fermes de smartphones qui écoutent des sons.
Il y a des vidéos, sympa sur YouTube. Vous pouvez voir ça. Donc bon, moi j'ai l'impression qu'on est dans une bulle parce que heureusement
ça correspond à rien. Ouais.
Heureusement que c'est des multinationales derrière, c'est du Google, du Spotify, du Apple qui ont tellement de milliards qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste calmer le jeu. Eux, le streaming, ça a été une bataille avec les maisons de disques.
Ouais.
Et la maison de disque aujourd'hui, elle est contente de dire bon, on prend le pognon
qu'on nous donne, quoi.
Mais ça correspond à rien. Moi, je vois aujourd'hui des rappeurs que je ne connais même pas. Ils sont 50 000 disques d'or en France. Toi, tu peux te poser des questions quand même. Mais bon.
Mais pour toi, c'est vraiment parce que il y a quand même comparé à. Je peux comprendre d'ailleurs ton point de vue de maison de discos. Qui dit, mais attendez, on a mis zéro thune en promo, ce rappeur, comment ça se fait qu'il soit connu et tout. Mais en fait, les rappeurs maintenant, avec Insta, Snap,
bien
etc.,
sûr,
ils font leur propre promo.
Ah, mais complètement, bien sûr.
Et finalement, ils ont
attention,
moins besoin.
Attention, les Insta et les Facebook, c'est géré par la maison disque, hein, la plupart du temps.
Oui, non, mais enfin, tu sais, c'est plus inconcevable de voir un mec sortir de nulle part qui a déjà, en fait, une bonne audience, un bon nombre de...
Mais c'est des chiffres, en fait, c'est surtout la différence d'avant et après. Ou avant, franchement, pour avoir dans le top 10 un rappeur, c'était difficile, quoi, tu vois. Ouais. Là, tu le vois, il squatte les 6-7 premières places. C'est une question d'époque aussi, mais.
C'est une question d'époque, mais. Non, Six, il dit, c'est pas qu'une question d'époque, c'est une question de zoulouterie. Après, les mecs, ils te parlent de vendre du shit, alors j'espère qu'ils truent un peu.
Honnêtement, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait.
Ouais.
Même la maison 10, elle s'en fout.
Et donc, le modèle, il tourne dessus. En même temps, j'ai envie de te dire qu'on fait un peu exactement la même chose que la comptabilisation d'audience médiamétrique pour la télé. Ça a toujours été une zoulouterie sans nom, et pourtant t'as tout un business model de publicité qui s'est greffé dessus.
Parce
et...
qu'il faut, comme tu dis, il faut un business model, il faut bien une base.
Règle. Voilà, faut une règle. Comme dans le podcast. Et là, on pense aux maisons concurrentes de qualité, avec leurs épisodes écoutés 80 000 fois en 4 jours avec un commentaire.
Tu sous-estimes le succès.
Oui, ça doit être ça, oui, bien sûr.
Et donc voilà, bon, on va revenir à notre petit Luda qui est dans une période.
Ouais, donc là, du coup, bon, alors il est nul en vente, mais il est pas mal en stream, donc oui, bon, ok.
Voilà.
En fait, c'est ça.
On va dire ça.
Enfin, même pas, parce que du coup.
C'est pas énorme,
en
plus, en stream.
Ouais, ça fait 50 000 ventes, donc.
C'est pas énorme, tu vois, c'est vraiment ce qui est même très faible. Et c'est son dernier album. C'est le dernier album en date.
Donc là, en 2015, il a rien tenté depuis.
Ah non. Il va annoncer souvent son 10e album.
Tu l'as là, le
9e?
Luda Versa.
Ouais, il est quelque part là, et c'est celui-là. Celui avec le.
Ah bah oui.
Tu penses qu'il prend l'avion pour partir ailleurs?
Ah bah alors la pochette, c'est un jet privé et une berline de luxe.
Ça, c'est Instagram, c'est influence Instagram là.
Oh là là.
Je sais pas le nombre de photos, les gens. J'ai l'impression que le business du jet privé est en plein essor.
Bah oui, il y a des boîtes qui sont spécialisées pour te louer le jet privé au sol pour que tu puisses prendre des photos pour faire comme si t'allais dedans.
C'est fou, hein, sur Instagram, t'as l'impression que tout le monde voyage en jet. C'est hallucinant, tu vois.
Ah bah oui, c'est... en plus c'est la modestie.
Ouais, bah c'est...
Donc il y a un poster à l'intérieur au cas où t'as envie d'avoir Ludacris. C'est un format de poster en plus un peu pourri donc dans tes chiottes. Bon bref.
Okay. Et donc voilà, donc il annonce son 10e album pour 2020.
Il y a quand même CeeLo Green hein, sur ton affaire là.
Ah mais de toute façon Luda.
John Legend, Rick Ross,
c'est,
Big Crit.
C'est quelqu'un de hyper respecté, encore une fois. C'est quelqu'un qui a aucune casserole, qui est toujours respectable.
C'est vrai.
Aucune histoire judiciaire.
Ouais, contrairement à l'autre con qu'il y a, et là, qui fait des allers-retours, lui, il va pas en taule, il a fait des études.
Voilà, il est,
c'est un entertainer, ça.
Ouais, j'ai envie de dire, normal, presque, tu vois.
C'est un artiste.
Ouais.
C'est-à-dire que personne n'a jamais testé, il s'est jamais fait gauler avec des flingues sur lui, machin.
Rien du tout. Très clean, très clean.
Très très bien.
Et alors, donc il annonce son 10e album chez Def Jam, toujours. On peut reconnaître même que Def Jam ne lâche pas.
La fidélité.
La fidélité, c'est comme à noter. Et ce qui est drôle, c'est que bon, c'est Ludacris, il va partout. On a vu Justin Bieber, et là, il va recevoir un Country Music Award.
Ah bah, pourquoi pas.
Avec une artiste qui cartonne aussi aux États-Unis dans la country, c'est Carrie Underwood, avec ce morceau. Mystic, open and never shut, and the end is necessary, cause I'm never giving up. See, they ask me how I did it, I just did it from the heart. Crushing the competition, been doing it from the start. They say that every champion is all about his principles. Carrie! Alors ça, c'est le morceau putassier.
Alors, excusez-moi, mais si on peut pointer du doigt l'hypocrisie de ces enculés d'Américains, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ce morceau-là, qui a absolument rien de country, le mec a eu un Country Music Award, alors que Little Nas X, avec le père de Miley Cyrus, qui fait All Time Road, qui est full country, lui, par contre, on lui a dit « Ah non, mec, c'est du rap ».
Voilà.
Tu vois, en fait, ça veut juste dire, non, mec, t'es noir.
Tu vois, mais complètement.
Tu veux être country, la country, c'est une musique de blanc. Donc, putain, mais quelle bande de chiens.
Mais bon, ils vont quand même lui donner un Country Music Award.
Bah oui, mais en fait, c'est juste parce que c'est Carrie Underwood, featuring Ludacris, c'est pas le contraire.
Complètement. Et comme tu dis, ce morceau, c'est la formule du morceau. Tu sais,
c'est les champions. D'ailleurs, il s'appelle Champion.
Tu vois, c'est. Bon, voilà, bon, on va finir là-dessus, Champion. Voilà. C'est-à-dire que Ludacris, on va finir sur une bonne note, c'est un champion. On l'a beau dire, voilà, c'est vrai que.
Oui, c'est vrai que si on cumule toutes les ventes, il est quand même pas dégueulasse.
Oui, non, il est bien.
Je pense pas qu'il a tutoyé les sommets comme T.I. a pu le faire.
Non, parce qu'il a pas eu le single cross. Tu sais, le single pop que l'a eu T.I. comme on a eu
ou des mix qui a réussi à récupérer en fait un public d'un autre style musical. Voilà, ouais.
Exactement.
Lui, non, il est resté hip-hop.
Ouais, il est resté hip-hop.
Par contre, il est resté hip-hop sans aller en tôle.
Ouais.
Sans se faire gauler en train de fumer ou machin.
Je pense qu'il était assez intelligent pour comprendre qu'une fois que t'as du succès, faut gérer. Puis voilà, puis sa carrière au cinéma a aussi contribué à ça.
Oui,
je pense pas qu'il peut se permettre d'être en face de virus, t'as un tous les deux ans.
Ça vaut le coup de se tenir à carreau.
Tu vois, surtout avec les cachets. La musique, franchement, le music business pour Ludacris, c'est tellement minime, ça doit rapporter que dalle par rapport au cinéma.
Par rapport au cinéma, ouais, bien sûr.
Et donc voilà, quoi. On peut dire que Ludacris, il continue sa petite carrière au cinéma, il prépare son 10e album. Alors, je vais pas dire que je l'attends, tu vois, parce que bon, je veux dire, surtout quand tu entends Champion avec Carrie Underwood. Bon.
Mais c'est con, parce que le truc d'avant, la Good Lovin' avec
Attends, peut-être qu'on sera surpris qu'il va reprendre un album
dans son sens. Je lui souhaite une bonne fin de carrière.
Surtout pour le 10e, quoi, ça marquerait bien.
Une fin de carrière relaxe de chanteur,
posée.
Style common.
Ouais, bien sûr.
Common, bon son, plutôt orienté soul, tu vois. On revendique le fait qu'on est des Afro-Américains, mais pas trop non plus. Ouais. On fait des plateaux de télé, on fait de la musique qui s'écoute partout. Plutôt que des trucs avec Carrie Underwood, putain, secours.
c'est tellement Ludacris, tu vois, il est partout, quoi, le mec.
Ouais.
C'est déjà de Justin Bieber à Carrie Underwood avec du hip-hop, frappe, du cinéma. C'est l'entertainer, comme tu dis.
C'est
l'entertainer, tu vois. Le rap, c'est une partie du truc. C'est une partie du truc, tu vois.
Normalement, le rap, c'est une partie du hip-hop. Pour lui, le rap, c'est une partie du show.
C'est partie du business. Ouais. Nous, en France, on a du mal parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent dans le hip-hop, ou très peu, tu vois. Alors que là-bas, c'est la musique numéro 1.
Il n'y a pas d'argent dans le hip-hop en France, mais c'est aussi la musique numéro 1. Alors, à un moment donné,
c'est un souci. En France, ce qui fait que ça ne rapporte pas assez d'argent, c'est qu'il n'y a pas de tour. Il n'y a pas de tournée.
Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé.
C'est parti ou en sucette.
C'est quand même des sauvageons. Hein.
Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une économie qui s'est mise autour de ça, parce que je pense qu'après les États-Unis, la France, ça doit être le deuxième marché du hip-hop. Et qu'il n'y a pas eu
on
cette.
On est le deuxième marché de plein de trucs.
Ouais, c'est vrai.
On est le deuxième marché du manga, on est le deuxième marché du streaming Twitch, on est le deuxième marché du hip-hop, alors qu'on a une population qui n'est pas du tout en phase avec. Mais comme quoi, il y a un truc à faire.
Bien sûr.
Effectivement, après.
Bah, attends, tu regardes au collège et au lycée, tous les kids, du hip-hop dans leur iPhone.
Maintenant, les petits.
Ouais.
Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment du hip-hop?
C'est du hip-hop, tu vois. C'est.
Est-ce que QE Favelas.
On va biper.
Est-ce que QE Favelas, c'est du hip-hop? Est-ce que Kobalade, c'est du hip-hop? Non, je plaisante. Je suis pas du tout un gatekeeper. Oui, Kobalade, c'est du hip-hop. C'est du très mauvais hip-hop, mais c'est du hip-hop, hein, après tout. Et puis en plus, il rappe comme Kermit, donc c'est chouette. Du coup, on a quoi à dire sur l'ami Luda pour conclure que c'est une...
C'est un artiste important.
C'est encore un truc classique, hein, c'est-à-dire que ça tombe quand même. Hein,
Oui, mais c'est là que...
Plus le temps passe, plus on se rapproche de
c'est
zéro.
Dur, hein, c'est dur de... Mais c'est ça, c'est cette période-là, c'est cette période où t'as des montées fulgurantes. Mm-mm. Tu sais, dans les années 2000, début 2000, et comme il n'y a pas le streaming où il peut y avoir 50 artistes sur ta playlist différents, c'était des CD, donc il y avait du budget, donc il n'y avait pas 50 000 artistes. C'est quand un label sortait trois sorties dans l'année. Donc il y avait du travail, donc il y avait un vrai système de stars. Aujourd'hui, bah, avec le streaming, c'est facile de sortir des artistes. T'as l'impression que tous les mois, il y a un nouvel artiste qui sort, tu vois.
Tous les mois, c'est gentil, toi.
Ouais, pour
Ah bah ouais, moi, j'ai renoncé. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai renoncé à essayer de me tenir au courant.
Ouais, mais moi, complètement.
Je n'y arrive plus, c'est impossible. C'est un
impossible.
Travail à temps plein, en
ouais,
fait.
Mais vraiment.
Puis surtout, t'écoutes des photocopies.
Puis c'est exactement ça. C'est toujours
supportable.
La même chose. C'est
donc effectivement, moi, si tu regardes mes playlists Spotify, j'écoute plein de trucs, mais souvent, je me bute là. Je vous ai fait écouter avant l'émission Jay Warzy, London Drugs et tout. Les albums sont sortis en 2016.
Ouais.
On est en 2019. Le truc, il vient à mes oreilles parce que finalement, bah, j'ai pas le temps, moi, d'écouter tout ce qui se fait.
Ah, mais complètement, c'est vrai, hein, c'est vrai.
Donc, t'as 3 ans de lag. Bon. Mais est-ce que c'est un mal, finalement?
Bon, c'est le tenter, comme on dit, on devient vieux. Quand on dit que ce qui se passe actuellement.
J'aimerais bien savoir si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui justement bataillent comme ça pour se tenir au courant.
Alors moi j'écoute le top 10 toujours.
Oui, mais le top 10, tu dis, ouais, mais c'est du flan. Si c'est le top 10 du streaming, oui, c'est des mecs qui achètent des robots.
Oui, mais bah, j'écoute quand même, tu vois. Je l'écoute quand même. Mais le top 10 américain est certainement différent. Je pense que la puissance de frappe. De streaming aux États-Unis fait que c'est dur d'acheter. Faudrait en acheter un paquet de dizaines de millions
pour
essayer
de piper.
Voilà, tu vois,
de piper
c'est plus compliqué que 50 000, tu sais, où tu fais 10, 15 000, tu montes déjà d'un cran.
Aux
États-Unis, c'est plus difficile, c'est plus représentatif. C'est-à-dire que quand tu regardes le top 100.
Ou alors, c'est que t'as plus de robots qui te coûtent plus cher, mais tu mets de l'oseille pour
des farms. Je pense que quand t'arrives à des chiffres où c'est plus possible de tricher.
Pendant ce temps, à Shenzhen, là tu vois, panoramique sur un entrepôt rempli de smartphones, tous branchés en série, là, qui sont en train de d'écouter sur Spotify. Ouais, ok, bah donc...
Alors, on a entendu ton titre préféré, mais on l'a pas... Tu as cité ton titre préféré, on l'a entendu vaguement, donc toi c'est ça ton titre préféré ?
Splash Waterfall, c'est ça, je l'avais appelé Fuck Me, parce que tu me connais moi au niveau des titres des chansons. Splash Waterfall, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ouais. They want it nice and slow. Kiss them from head to toe. Relax and let it go. Say it. They want it now and fast. Grabbing and smacking. You gotta make it last. What? Together holding hands. You out there spending grand and making family plans. Say it. Don't have to straighten facts. Don't want no strings attached. Just scratches on your back. What? Exes ain't acting right. And you so glad to fight. Dinner's by candlelight. Bon. Donc là, on est à Atlanta pour la deuxième fois. J'en peux plus de cette ville. J'en peux plus.
Alors, cette fois-ci.
Le prochain artiste, attention.
Le prochain artiste, donc, ouais, ce qui est bien, c'est là qu'on est fort, tu vois. Si on en a pas mal parlé. On va aller du côté de Chicago.
Oh.
Et on va faire Common. Common Sense.
Oh. Yes!
Donc, c'est ça qui est. C'est la magie du. La magie du
super.
Show. Ouais.
Enfin, un bon artiste.
Et là aussi, vous allez voir. Common Sense, artiste méconnu en France, mais ultra, ultra respecté et populaire aux États-Unis.
Et également un acteur.
Et également l'acteur.
Respecté les mecs. Bon, très bien. Alors, ça, tu vois. Ah! Je suis bien.
Il y a 10 albums, hein. 12 albums, je crois même.
Ouais, mais en fait, on va en écouter 2. Voilà. Et par contre, les 2, on va les écouter en entier. Voilà.
Et on va faire du streaming, pourquoi pas.
Voilà, bah, j'espère en tout cas que ce numéro 6 de Six and Daz vous a plu, les petits amis, et que vous en avez appris un peu plus sur notre ami Luda Chris. Comme d'habitude, obligation contractuelle oblige. On a un Patreon. Donner de l'argent, en fait, pas les rats. Est-ce que vous pouvez le dire comme ça ou pas? Oui, en fait, on s'en fout. Non, je plaisante. En fait, donnez si vous voulez donner, donnez pas si vous voulez pas donner. Après tout, c'est vous qui vous regardez dans le miroir tous les matins. Par contre, et ça, ça vous coûte rien, mettez des étoiles sur iTunes, mettez des étoiles, des petits commentaires, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Et évidemment, pour les 3-4 hip-hop heads qui nous écoutent aussi, relevez les erreurs factuelles,
voilà.
Envoyez-les nous sur Twitter, et puis on vous dira
c'est
qu'on s'en branle.
C'est deux coups de fouet par erreur.
Non, on s'en branle en fait. Et vous pouvez rien faire, l'émission est enregistrée. Et voilà. Non, je déconne, si vraiment on s'est complètement trompé, n'hésitez pas à nous
on
faire savoir.
On a dû se tromper d'un mois, peut-être novembre.
Ouais, sûrement. Non, mais s'il y a des erreurs, franchement, comme notre ami qu'est-ce qui nous avait. Non, c'est Kevin qui compilait les. Dédicace à toi, Kevin, qui compile les playlists. Non, s'il y a des erreurs, vous nous connaissez, on accepte nos erreurs, on fait des erratums sur l'émission d'après. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'était un plaisir de suivre encore un artiste que je n'aime pas. Et ça va être un plaisir de suivre un artiste que j'aime bien. Oui, Luda, ouais, non, je l'apprécie. C'est un très bon rappeur.
Ouais, c'est un très bon rappeur.
C'est juste que c'est des très mauvaises instrus. Voilà. On se quitte là-dessus. Merci à tous et merci à Gis pour sa passe. Non, vraiment, Gis, on va te foutre un micro, comme ça tu pourras ricaner en même temps.
Hein. Vous lâchez un petit flou, tu vois.
Il préfère parler de loin. Ok. Allez, salut à tous et puis à dans deux semaines.
Ouais, ciao. Nobody has to know. Just keep it on the low. And meet them right at bow. Nothing but fights and pussing. Plus there's a lot of cussing. Just grab a hold of something. Y'all do that bad stuff. She like it rammed up. Ropes and handcuffs. What?